Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos quatre points de vue différents. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Et après un bel invité sur notre dernier épisode, d'ailleurs je vous encourage à aller voir cet épisode avec Victor, on se retrouve aujourd'hui pour reparler d'un thème un peu plus sérieux, mais dédié à l'entraînement. Et je suis toujours accompagné de Mims, Thib et Will. Salut à tous.
Hello. Salut tout le monde.
Et aujourd'hui, on attaque un sujet que tout le monde aime en CrossFit, c'est la force. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va parler d'entraînement, on va parler de méthode, on va parler de nutrition, on va parler un petit peu de physiologie, etc. Mais en essayant de rester simple pour que vous puissiez comprendre et appliquer ça dans votre entraînement. Aujourd'hui, la force, c'est quoi concrètement? Ça dépend de votre objectif en vérité. On a plein de sports différents où on utilise la force. On a des objectifs différents. En CrossFit, traditionnellement, et on le sait, on enseigne au level 1, on parle de la force comme quelque chose qui va nous permettre de rester indépendant toute notre vie. Quand je dis ça, c'est d'avoir une vie indépendante, de pouvoir vivre en autonomie le plus longtemps possible. Et on sait que c'est la force, et Will, il va nous en dire encore plus, mais c'est quelque chose qui se développe à travers toute notre vie et à travers une régularité et une fréquence dans notre entraînement et dans notre assiduité. Mais on peut parler de plusieurs sports. Forcément, nous, aujourd'hui, on va parler beaucoup de CrossFit. Et donc, en CrossFit, on parle souvent de force sous plein d'aspects différents. On parle de rep max, forcément. Mais on a aussi un objectif de soulever pas mal de reps avec une charge conséquente. Donc, on a aussi cette notion d'endurance. Mais on a aussi plein d'autres sports qui ont d'autres objectifs. On parle du weightlifting, donc de l'haltérophilie. Quand je dis l'haltérophilie, c'est l'haltérophilie olympique, où là, théoriquement, on va plus aller travailler dans la puissance et on va avoir cette notion de coordination, de proprioception, parce qu'on a des mouvements assez techniques, avec beaucoup de techniques à travailler tout le long de notre vie. On a le powerlifting, et là, on va en parler avec Will aussi, où on va travailler la force pure, on est sur des mouvements vachement symétriques, où on va rechercher la véritable répétition max avec des mouvements qui sont assez beaucoup plus simples que l'haltérophilie. Après, on a le strongman. Et le strongman, c'est vachement intéressant parce qu'on commence à parler de fonctionnalité. Quand je parle de fonctionnalité, c'est vraiment un mouvement fonctionnel, soulever une charge du sol, la mettre sur un objet, répéter ça plusieurs fois. Et là, on commence à s'approcher de la multitude de reps et on commence à arriver proche du CrossFit où en CrossFit, on cherche cette polyvalence dans différents domaines de force. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie fonctionnelle, donc sur la partie CrossFit, le véritable objectif qui est de développer la force de manière saine à travers le temps et à travers sa vie. Et avant toute chose, moi, l'idée de ce podcast, elle est venue quand on a vu Will faire une petite compète de powerlifting. Je sais que c'était ta première compète, Will. Moi, j'aimerais savoir, comme première question, tu as fait des chiffres qui sont conséquents en rep max. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu en as retiré? Et comment est-ce que tu appliques ça aujourd'hui dans ton entraînement?
Bah ouais, c'était l'objet, c'était de me tester, de savoir un peu. J'adore les autres sports et du coup c'est vrai que j'ai cette intention de me tester dans d'autres sports que je pouvais pas faire, on va dire, quand j'étais dans la saison CrossFit à part entière, donc en individuel, etc. Parce que comme on le répète souvent dans ce podcast, plus on fait de compétition, moins on est performant et moins on progresse. Donc il faut cibler ses échéances pour pouvoir mieux se préparer et viser cette performance ultime. Donc là, j'avais envie de me tester et c'est parti aussi de certains adhérents de Louis, le head coach de Wiz CrossFit, qui a dit à tout le monde bah, oh, ça serait cool qu'on fasse cette compétition. Il y avait une compétition pas loin organisée. On s'est tous motivés, on y allait une petite dizaine là-bas, c'était très fun, très très cool. On a passé un bon moment et c'est toujours cool de voir aussi d'autres standards parce qu'il y avait plein de règles que je connaissais pas. Et donc c'était sympa parce que ça permet vraiment de s'ouvrir à d'autres sports et de toucher du doigt cette spécialisation sans vraiment la faire dans son entraînement quotidien parce que voilà, on fait du CrossFit avant tout et donc on se spécialise pas. Mais c'était sympa, vraiment vraiment un bon moment et c'est vrai que j'ai fait des chiffres conséquents pour un crossfitter, hein, c'est à prendre avec des pincettes, hein. J'ai fait des chiffres que des gens de moins de 65 même font largement. Mais après, voilà, on a décidé aussi de rester un peu dans le crossfit, c'est-à-dire au back squat faire en barre haute, pas en barre basse, milieu du dos, parce que c'est le back squat comme on aime faire au crossfit avec un vrai squat profond et une barre haute. Et au bench press, au développé couché, ouais, on est resté dans une prise traditionnelle, on va dire pas trop avec un cambrage énorme du dos. Après, c'est aussi parce qu'on le maîtrise pas forcément, hein, c'est pas pour juger, c'est deux sports différents. Donc on a apporté un peu de crossfit au powerlifting, on va dire.
Ah, c'est super. Mais raconte-nous un petit peu, parce que je suppose que ces max, ils sont pas arrivés là par magie. On sait très bien, et on l'a vu au CrossFit Total pendant les Games à l'époque, que t'as un athlète qui a quand même une force bien, bien conséquente par rapport aux autres athlètes dans le CrossFit, au niveau top mondial en tout cas. Comment est-ce que tu en es arrivé à développer cette force? Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que c'est de la régularité à travers d'autres sports? À ton avis, qu'est-ce qui t'a amené à ce niveau de performance-là?
Déjà, un point que souvent on me demande, c'est on me dit toujours « Ouais, tu seras encore plus fort si tu te spécialises. » Alors, dans mon cas, je ne pense pas. Même si je pense que j'améliorerai un peu mes performances, mais pour déjà l'avoir testé, je suis jamais aussi fort que quand je fais tous les sports que j'aime. Donc, courir, faire des cardio, faire de la gymnastique et faire de l'haltérophilie. J'en ai besoin et je pense que mon corps, il est habitué comme ça. Donc, peut-être que si je me spécialise, je serai plus fort dans ce domaine, mais à moindre mesure que d'autres personnes, je pense. En tout cas, c'est mon point de vue perso. Mais c'est... La force, comme tu l'as si bien dit, c'est une question de, déjà, bon, il y a une partie génétique, on va pas se le cacher. On n'est pas tous, on va dire, à pied d'égalité. Par exemple, si on prend des champions d'haltérophilie, comme Lacha, par exemple, qui est celui qui fait les plus grosses barres en poids lourd. Je sais pas c'est quoi, j'appelle la catégorie poids lourd parce que je suis habitué avec l'UFC et tout, mais je sais pas, je crois que c'est plus de 120 kilos. Je sais plus c'est combien. C'est plus de 105.
C'est la catégorie des plus lourds possibles.
Ouais, des plus lourds, voilà. Donc, désolé pour cette catégorie, mais je ne connaissais pas, je suis plus adepte des catégories à l'UFC ou les sports de combat. Et on voit qu'il a une génétique énorme, mais ça lui permet de faire des barres incroyables, ce Lacha. Et on n'est tous pas sur un pied d'égalité là-dessus. Par exemple, moi, je n'ai pas la même génétique qu'un Fraser. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Donc, si je fais le même programme d'entraînement que lui et que j'ai la même vie que lui, je n'aurai pas forcément les mêmes performances que lui. Et ça, c'est normal. Mais après, comme tu l'as dit, Julian, notre vie de tous les jours, elle permet aussi des fois de déclencher ou pas cette génétique. Et c'est surtout de la régularité. Si je veux synthétiser tout ça, c'est ce que je répète souvent aux 8 athlètes, c'est leur dire, pour être fort, il faut pas faire de la force à haut pourcentage tous les jours. C'est la clé. Franchement, j'ai fait cette erreur dans une partie de ma carrière et avec le temps, on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs et on adapte son entraînement. Et en fait, quand on comprend que faut pas forcément soulever lourd tous les jours pour être fort, ça fait toute la différence. Il faut des phases où le système nerveux récupère et comme on en parlera plus tard, des phases différentes dans son entraînement sous forme de cycles, micro-cycles, etc. Et c'est ça la clé. Trop d'athlètes, je pense Mims, Julian, vous l'avez vu aussi dans les box et Thibaut aussi. Des fois, ça part d'un bon sentiment. On veut toujours faire du lourd. Alors oui, il y a l'athlète du quotidien qui s'entraîne 3-4 fois grand maximum par jour. Et là, il peut faire du lourd parce que il s'entraîne. Il a pas un gros volume d'entraînement. Mais l'athlète qui s'entraîne tous les jours de manière régulière, il ne peut pas se permettre de faire du lourd tous les jours. Donc quand il y a marqué dernière barre, même si c'est un 3x2 à 75 ou 80% avec un certain temps de récupération, il faut mettre plus de vitesse, mais pas forcément mettre plus lourd. Donc c'est la clé et c'est ça qui fait toute la différence. C'est tout bête, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment la différence. Il y a des moments pour soulever lourd, il y a des moments pour soulever pas lourd et pour se préparer à soulever lourd.
C'est une bonne intro pour le reste parce qu'on va essayer de développer un petit peu tout ça sur la fréquence, la récup, le format des reps, des séries, etc. Moi d'abord, j'aimerais commencer avec un peu la base et c'est une question pour Tib. Mais Tib, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu concrètement ce qu'est la force en termes de physiologie?
Oui, bien sûr. La force, déjà la définition de la force elle-même, c'est la capacité d'un muscle ou d'un groupe de muscles à générer une force contre une résistance, donc externe souvent, dans notre cas. Et ensuite, pour créer de la force d'un point de vue physiologique, c'est en fait une réponse de notre corps à un stress extérieur. Donc, si vous appliquez une charge à votre corps, le corps va subir cette charge, il va subir tout court. Et donc, son but, ça va être de se préparer pour que la prochaine fois, il soit plus à même de lutter contre cette charge. Donc, il va y avoir un sacré paquet de réactions qui vont se passer dans notre corps pour être capable de réagir mieux la prochaine fois. Donc, on va passer un petit peu sur la physio là-dessus, mais en gros, si vous voulez, quand vous allez lutter contre cette charge, vous allez avoir d'un point de vue musculaire, tendineux et ligamentaire, des réactions qui vont se faire. En gros, vous allez recréer du tissu, si vous voulez, donc principalement des fibres de collagène pour le côté tendineux. Et donc, vous allez recréer des fibres par-dessus pour aider à mieux résister la prochaine fois. Vous allez également avoir un réalignement ou une restructuration de ces fibres-là pour mieux lutter la fois d'après. Il y a plusieurs types de fibres musculaires. Donc ça, on l'entend assez régulièrement. Mais on a principalement deux types de fibres musculaires. On a des types 1, qui sont des types donc, qu'on appelle rouges, qui sont des fibres lentes et qui vont du coup être... très présente chez les athlètes d'endurance, donc chez des triathlètes ou des cyclistes ou des gens qui font des marathons ou des trails. Donc c'est le premier type de fibre. Et le second type de fibre, qui s'appelle type 2 ou blanc, est également rapide. Donc là, ce sont les fibres qu'on va retrouver principalement chez les gens qui font des sports d'explosivité, de force, du sprint, de l'haltérophilie, du powerlifting. Voilà. Et cette proportion de fibres n'est pas la même chez tout le monde. Donc on est tous avec les deux types de fibres, mais par contre, on va développer plus ou moins un ratio vers l'un ou vers l'autre. Donc dans le principe d'un athlète de CrossFit, où il doit être à la fois endurant et fort, on va essayer de travailler les deux types de fibres. Mais si vous prenez quelqu'un qui a fait du triathlon de son enfance jusqu'à ses 20 ans, il va quasiment jamais taper dans ces fibres de type 2 et donc va en fait augmenter son ratio vers les types 1, ce qui fait qu'il va avoir beaucoup de mal à, par la suite à prendre de la force. Inversement, quelqu'un qui a fait du sprint ou de l'haltérophilie toute sa vie va avoir du mal à courir un marathon parce qu'il n'a pas le bon type de fibres en lui, en tout cas pas le bon ratio. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute là-dessus encore?
Je pense que c'est super intéressant. Et moi, j'aimerais insister sur le fait qu'en fait, chaque muscle a un peu une combinaison de ces deux fibres, si j'ai bien compris, selon l'objectif du muscle. Donc, chaque muscle a un peu sa fonction de base. Et que bon, après, selon la génétique, l'adaptation, le lifestyle, etc., ben, on a plus de slow twitch, donc les fibres lentes ou les fibres rapides. Mais en gros, chaque muscle peut avoir cette combinaison différente parce qu'il y a des muscles qui sont plus là pour créer la vélocité et il y a des muscles qui sont plus là pour créer l'endurance, être capable de résister à excentrique sur de longues durées, etc. C'est bien ça?
Oui, exactement. Et donc, on l'a pas évoqué là, mais il y a plusieurs types de contractions musculaires également qui vont soit aider dans ce que Will va pouvoir aborder, c'est-à-dire dans la préparation et comment gagner en force. Mais le muscle, il est capable de se contracter de plusieurs manières différentes. Il est capable de ce qu'on appelle en concentrique. Pour faire un exemple, c'est un biceps curl. Ça, c'est du concentrique. Donc, on rapproche les deux bouts du muscle vers l'un vers l'autre. Ensuite, on a l'isométrique, c'est-à-dire on met une contraction dans laquelle la longueur du muscle ne bouge pas. Donc, c'est comme si vous restiez pendu à une barre sans bouger. Ça, c'est de l'isométrique. Et ensuite, on a l'excentrique. C'est le fait de monter au-dessus de la barre de traction et de se laisser doucement redescendre. Donc, on va en fait travailler tout en allongeant le muscle. Ça s'appelle de l'excentrique. Et donc, on va pouvoir être capable en fait d'utiliser toutes ces méthodes de contraction différentes pour progresser. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le corps humain, il fonctionne à l'économie dans tous les domaines. Et donc, son but, c'est d'être prêt à accepter un effort que vous allez lui mettre en face dans le futur, mais d'en faire le minimum possible. Donc, si jamais vous vous entraînez toujours de la même manière, et que vous faites toujours la même chose, vous faites que des exercices en concentrique sur 5 reps avec la même charge, et bien votre corps, il va juste s'adapter pour que vous soyez capable de faire ça avec le moins de contraintes possible. Par contre, si vous le choquez en permanence en modifiant les types de contractions, le nombre de répétitions, la charge, le positionnement que vous utilisez, le grip que vous utilisez, et bien votre corps, il saura jamais à quoi s'attendre. Et donc son but, ça va être de dire, ok, il va... Pour être prêt à n'importe quoi, il faut que je sois capable de créer du tissu, créer de l'adaptation pour être prêt à n'importe quoi. Et donc, c'est là en fait qu'on va avoir les plus grands résultats. Et c'est là que le corps va être le plus fort possible, pas d'un point de vue force, mais d'un point de vue je suis capable de répondre à tout ce qu'on me demande.
Ouais, et donc là, tu parles d'adaptation physiologique. Donc, c'est ce qu'on cherche en CrossFit régulièrement. On parle souvent de ça avec le mot intensité. Donc, quand on définit le CrossFit, c'est constamment varié, mouvement fonctionnel à haute intensité. Beaucoup de gens interprètent l'intensité comme étant constamment de la vitesse ou plus de poids. Mais en réalité, si vous lisez bien le level 1 et vous allez un peu plus loin dans la méthode, on comprend que ce que Glassman voulait dire avec le mot intensité, c'était justement cette notion d'adaptation physiologique. Et si vous explorez CrossFit.com et le CrossFit Journal, vous allez voir un paquet d'articles justement qui décrivent le protocole de Seeley, si vous regardez, sur les systèmes d'alerte. Donc, quand on applique un stress au corps, qu'est-ce qui se passe derrière? Et il y a cette notion d'adaptation. Donc, faut bien comprendre que si on veut un résultat, eh ben, il va falloir qu'on soumette notre corps à un stress un petit peu plus haut et peut-être un peu plus différent que ce qu'il a vécu avant. Je dis pas des conneries, Will, je pense que c'est ce que tu fais non, au quotidien.
Bah, ouais, tu dis pas du tout des conneries, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Thibaut parce que je pense qu'on a aussi quelque chose, bah, qu'on peut, on peut bifurquer là-dessus pour juste transmettre aussi la bonne parole, mais ça rejoint ce qu'on dit des fois dans d'autres podcasts, l'importance de, pour les jeunes, de ne pas se spécialiser trop tôt et parce que c'est là, ce moment où il y a cette plasticité qui leur permet de préparer leur corps pour à peu près tout. Et donc, c'est super important. Moi, c'est un truc que je répète sans cesse, mais je dis, bah, c'est pas bon pour un jeune. Après, bien sûr, s'il y a des jeunes qui ont envie de se spécialiser, ils le font, bien sûr. Mais c'est bien quand, pour les très jeunes, de ne pas se spécialiser, de toucher un peu à tout. Et bah, c'est ce qu'on fait avec CrossFit Kids. Par exemple, moi, quand je vois les kids le mercredi matin ou le samedi à la boxe, tu vois, ils font tout. Tu travailles leur agilité, leur force, leur explosivité. Ils essayent de faire plein de choses et je trouve ça vraiment sympa. Et c'est un truc, tu vois, que je trouve ça super intéressant de parler de la force et de bifurquer un peu là-dessus parce que je me dis, des fois, on voit trop, des fois, des jeunes se spécialiser dans des choses précises alors que tu sais pas, si ça se trouve, bah, moi, je prends mon exemple parce que ça sera peut-être plus parlant, mais j'ai eu la chance des parents qui voulaient pas me voir à la maison le soir et qui préféraient me voir au sport parce que je les saoulais. Donc, j'extrapole, hein, mais non, mais ils travaillaient beaucoup, donc ils avaient besoin de me jeter un peu à droite à gauche et j'ai eu la chance qu'ils me fassent faire plein de sport et je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue quand je suis arrivé au CrossFit, quoi. Parce que tu te rends compte que tout ça, tout ce que tu as fait étant plus jeune, ça t'aide pour être prêt à tout. Et je trouve ça génial. Et tu vois, de pouvoir, on va dire, transmettre ce bon message avec la force, c'était une belle occasion. Donc, j'ai coupé un peu notre élan, mais je tenais quand même à le préciser.
Non, mais Will, t'as 100% raison là-dessus. On le voit et les études maintenant le montrent principalement sur les pôles espoirs et ce genre de choses. Je sais que vous, en plus, vous avez fait partie des centres de formation et tout ça avec MIMS. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a une nouvelle mode qui va vers, même si vous voulez faire du golf ou du handball à très haut niveau et que vous avez le potentiel et qu'on le voit déjà, eh ben, on vous amène à faire d'autres choses à côté parce qu'on sait que c'est ces athlètes-là qui vont être les meilleurs, les plus performants et les moins blessés surtout dans le futur. Leur corps va avoir une capacité d'adaptation bien supérieure à tous les autres. C'est le problème de Tiger Woods qui a fait que du golf et qui a eu de nombreuses blessures. Il n'a jamais fait un autre sport dans sa vie. Et donc, on revient là-dessus. Oui, c'est le meilleur joueur au monde, mais par contre, il va avoir un côté un peu négatif à ça. Donc, c'est top de le dire ici, je trouve aussi.
Et même dans le basket, hein, on peut prendre des exemples comme tu prends un LeBron James ou un Michael Jordan aussi. C'est des athlètes. Je parierais une grosse somme d'argent que ces athlètes auraient pu faire professionnels dans d'autres sports. Et Jordan, il l'a prouvé au baseball. Il y en a d'autres. Je sais des athlètes de basket qui sont ultra performants en NBA, mais qui avaient aussi des bourses universitaires en lutte, en football américain et dans d'autres sports. Et du coup, tu vois, c'est vachement cool même de repréciser tout ça parce que c'est vrai que si tu veux être un sportif performant, même en te spécialisant, c'est important quand t'es plus jeune de t'ouvrir ton panel, ouvrir, on va dire, tous tes outils que tu peux t'en servir pour la suite. C'est avoir un bon background, c'est non négligeable.
Ouais, ça c'est vachement intéressant. Si vous assistez au séminaire CrossFit Kids où vous allez lire le manuel du CrossFit Kids, vous verrez, il y a un processus. J'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est la personne qui est responsable d'avoir écrit ce guide et qui est d'ailleurs chercheur à San Diego, qui travaille dans les hôpitaux et les centres de recherche. Et donc, ils ont trouvé que voilà, selon les âges, maintenant il y a plein d'études là-dessus, selon les âges des enfants, etc., dans cette période de croissance où toutes les hormones sont taquées et on peut récupérer très rapidement, eh ben il y a plusieurs types d'exercices à effectuer pour maximiser son potentiel athlétique dans le futur. Donc par exemple, au début, c'est beaucoup de travail de grip et de suspension le plus jeune possible. Après, quand on arrive vers 8, 9, 10 ans, on commence à beaucoup soumettre son corps à sa charge. Donc quand on est tout petit, on marche à quatre pattes, mais ensuite le soumettre à des impacts. Donc, utiliser la gravité pour appliquer une force sur le corps, des sauts, etc. Parce que là, la densité osseuse, elle est très importante et elle est corrélée à ce moment-là de la vie. Et donc, en fait, on voit qu'il y a un paquet de choses qu'on peut développer à travers le temps, comme la force, justement, qui peuvent se préparer dès tout petit pour que, quand on est adulte, la vie soit plus facile et on ait une longévité optimisée, etc.
Et faire attention des fois avec certaines personnes qui sont un peu dans les années encore 70-80 et qui disent, quand on voit des fois, ils voient des CrossFit Kids faire des mouvements au PVC ou avec des barres d'haltéro spécifiques pour les kids qui pèsent, t'as du 2,5 kilos, 5 kilos, bref. Et ils sont tous là à dire des fois, je trouve ça complètement débile. Oui, on va arrêter leur croissance parce qu'ils font de la force et tout, etc. Alors, il y a force et force, ils vont pas faire la même force que moi je fais. La méthodologie CrossFit Kids, elle est pas débile non plus. Mais voilà, c'est cool que les mentalités, elles changent progressivement, en tout cas là-dessus, sur cette vision.
Oui, chaque période de... Vas-y.
Ça se voit que ça arrête la croissance quand tu vois les teens en CrossFit aujourd'hui. Tu te dis, les pauvres, ils sont tous nains.
Vas-y, vas-y, Tib.
Je disais, tu as beaucoup d'études, comme tu disais, Jules, qui sont sorties maintenant et sur les enfants. Et en fait, il faut savoir que les enfants, ils ont une plasticité qui est vachement supérieure à la nôtre et qui sont capables d'encaisser beaucoup plus de choses que ce que nous, on fait. Et donc, mais à un point fou. Et j'ai souvenir que pendant mon début de kiné du sport, on avait un spécialiste du sport à l'adolescence qui était venu nous voir et qui nous avait montré une vidéo d'un gamin qui devait avoir, je sais pas, 5 ans et qui sautait d'une plateforme jusqu'au sol. Et puis, en fait, il refaisait ça. Il a fait ça pendant une heure pour s'amuser. Mais en fait, si tu le mets en ratio, il sautait 2,5 fois sa taille, le gamin. Donc, voilà, si tu prends Will, il faudrait qu'il saute presque 4 mètres et qu'il fasse ça toute la journée. Et on va voir si Will, le lendemain, il a mal au genou ou pas.
Je pense que oui.
Alors que le gamin, il ne s'est rien passé. Donc, les enfants, ils sont hyper, hyper forts dans ce sens-là. Et donc, il faut les amener à créer le plus de stress possible. Faut pas que ce soit dangereux, bien évidemment. C'était un peu dangereux, là, parce que s'ils tombaient mal, ils pouvaient se péter quelque chose. Mais franchement, il faut savoir que les enfants, il faut les pousser à faire plein de choses. Je dis pas de les mettre sous des barres de squat lourdes, mais en tout cas, leur apprendre le mouvement du squat, etc. Ne vous en faites pas, ils réagissent pas comme vous. Ils ont pas votre mobilité. Eux, ils sont vraiment mobiles. Regardez les gamins sur la plage quand ils sont petits et qu'ils veulent soulever une charge lourde. Ils ont le deadlift le plus parfait de l'histoire et pourtant, on leur a pas appris. Donc, amenez vos enfants à faire plein de choses, en effet.
Il y a des trucs tout bêtes. Bon, maintenant, il y a CrossFit Kids qui existe et qui est génial. Mais à l'époque, moi, à mon époque, quand c'était moins développé en France, tu avais un truc qui était génial et qui est toujours génial, bien sûr. C'est tout. Bim, tu connais, c'est l'école d'athlé.
T'allais
le mercredi, l'école d'athlé, et tu changes constamment de discipline toutes les semaines. Et je trouvais ça génial. Je me dis, t'as un gosse, tu le mets à l'école d'athlé, il va faire du saut, il va faire de l'endurance.
C'est une bonne prépa pour les enfants,
ouais. Ouais, l'école d'athlé, je trouve ça génial. C'est vraiment magnifique. Ouais, non mais clairement. Bah tu vois, toi Mims, tu l'as connu aussi, hein. C'est je trouve ils font aussi bien de l'endurance que de l'explosivité, que même un peu de force. Bref, c'est et il y a comme au judo, bon, il y a pas que l'école d'athlé, hein, il y a aussi les tout ce qui est baby judo, tu développes plein de capacités en gymnastique, même si bon, c'est vrai que c'est encore différent, mais ouais. Bon, on a la chance maintenant, il y a CrossFit Kids qui se démocratise en France et ça permet de développer. Mais CrossFit Kids, je trouve c'est aussi proche de ce qu'on peut faire aussi en école d'athlé, hein. Quand tu regardes,
oui,
c'est franchement, il y a quand même des ressemblances.
En vrai, ça ressemble énormément et c'est pour ça que je trouve que les deux sont bien. Si un enfant va dans un club d'athlé, il va pas se faire du 10 x 200, quoi. Il va faire que des choses ludiques. Mais
il le fera 15 fois. Il le fera 15 fois.
Mais et c'est une bonne prépa et ça ressemble à CrossFit Kids. Après, Kids, c'est encore plus complet puisqu'il y a cette histoire de grip, etc.
C'est plus poussé, on va dire. C'est plus la spécialisation pour les enfants est un peu plus poussée qu'à l'école d'athlé. Ouais.
Je pense qu'on va pouvoir faire un épisode là-dessus. C'est un sujet auquel on n'avait pas pensé. Mais à mon avis, sur les enfants, et je pense que ça intéressera un paquet de gens de pouvoir optimiser la condition physique de sa descendance. Mais je pense que c'est important pour leur longévité, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, il faut pas trop compter, pour l'instant en tout cas, sur le système français pour éduquer nos enfants à faire du sport, sauf s'ils ont la chance. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir... Il y a un truc, moi, qui m'avait choqué quand j'avais fait le séminaire Kids, que ce chercheur m'avait dit que les enfants entre 15 et 17 ans, ils avaient le système hormonal capable de faire une récupération similaire à un athlète des Jeux Olympiques. Donc un athlète de super haut niveau, au top de son sport, a la même réponse hormonale que les enfants entre 16 et 18 ans.
Bah,
et il me disait, c'est à cette époque-là qu'on bombarde les enfants avec du stress, comme tu disais, Tib, pour justement faire en sorte que dans le futur, ils explosent. Bon, après, il faut contrebalancer la sécurité et forcément le mental. Sinon, se retrouve avec des cas comme Mallory, par exemple, en CrossFit.
C'est ce qu'on disait, tu sais, dans le podcast sur le surentraînement. On en parlait, mais c'est pour ça que le surentraînement sur les jeunes de 20, 20 ans, 21 ans, pour les mecs, hein, moi je parle là parce que pour les filles, c'est encore des âges différents. Mais le surentraînement, il arrive beaucoup plus tard parce qu'ils ont cette période pendant 1 ou 2 ou 3 ans où ils arrivent à tolérer ce volume trop élevé parce que, comme tu le dis, ils ont des capacités, physiologiques qui sont complètement différentes d'un athlète à 25, entre 25 et 30 ans et 30, 35 ans. Et donc, c'est pour ça que c'est important de prévenir ça aussi parce que on voit des fois des athlètes, ils veulent s'entraîner de la même façon quand ils avaient 20, 21 ans, 22 ans et ils continuent. Puis après, au bout d'un moment, ils se disent, waouh, il y a un truc qui se passe, j'arrive plus du tout à enchaîner. Du coup, tu fais quoi? T'en fais plus. Et au final, c'est le début de la déchéance.
mais rassurez-vous, on va recentrer le débat sur la force. Rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez 25 ou 30 ou 35 ans comme la moyenne des gens qui écoutent ce podcast que vous êtes foutu. Au contraire, il y a plein de bénéfices à avoir de la force que vous allez pouvoir accumuler dans les 50 prochaines années, notamment sur la sécurité articulaire, etc. Des choses dont il faut vraiment en prendre compte. Il n'y a pas que la force, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Et d'abord, pour commencer à discuter des principes vraiment d'entraînement, moi, j'aimerais demander à Mims, est-ce que tu as des conseils pour déterminer ton objectif? Genre, on sait que en CrossFit, on parle des 10 qualités physiques. Donc, ben voilà, je veux développer, je veux être fit. On sait qu'il y a d'autres concepts d'entraînement comme la vitesse, la puissance, l'hypertrophie, l'endurance, la VO2 max, l'endurance longue, etc. Si je suis quelqu'un de normal, avec un objectif normal, comment est-ce que je dois définir mon objectif en force? Est-ce que toi, t'as des pistes là-dessus?
Si t'es un débutant, tu veux dire, et que tu commences une activité physique ou
Ouais, voilà, si je suis un sportif, je suis dans une box de CrossFit, typiquement un membre dans une affiliée, et j'ai envie d'être fort, j'ai envie d'être comme Willy parce que je l'ai vu faire et j'ai envie de faire comme lui. Okay. En réalité, comment est-ce que je dois définir mon objectif en force de manière réaliste?
Ben, l'avantage justement déjà. de la méthodologie.
Faire comme Willy, c'est pas possible, c'est trop tard.
Ouais, on est un peu, on a pas de chance. Mais du coup, en fait, la méthodologie CrossFit, elle est bien faite parce que elle se travaille simultanément la pyramide de la force, et on le voit de manière en fait quand on veut commencer à aborder en bodybuilding ou en musculation la force, on commence par quelque chose qui est d'abord de l'endurance de force, puis après on va sur l'hypertrophie, après de l'hypertrophie myofibrillaire, après de la force pure. Alors que ben en CrossFit, on mixe toutes ces modalités pour construire vraiment le socle et un tronc qui est solide pour une personne qui peut être débutante ou qui n'a pas été confrontée à une bonne endurance musculaire avant. Et en même temps, on essaye de mixer ça dans son parcours, même si c'est avec une force qui est un petit peu qui va aller sur les 5 reps max, qui est plutôt en haut de la pyramide qu'on atteint plus tard dans la programmation en body. Ben en fait, on va multiplier les répétitions en CrossFit quand on est débutant, et on va les diminuer pour atteindre une force pure. Donc en vrai, la seule recommandation que j'aurais, c'est de suivre la programmation telle qu'elle est, sans en faire des caisses. Comme Will disait, c'est que si à un moment donné, vous travaillez trop en force, ben nerveusement, vous êtes épuisé, ce qui fait que vous pouvez plus assumer le reste de la semaine. Donc c'est vraiment de varier un maximum, varier les intensités, varier les stimuli physiologiques, les dégradations physiologiques pour que votre corps soit intelligent, vous répare de manière à être plus fort, en fait.
Et sur ça, c'est vachement intéressant. Sur ça, moi, ma question, elle est pour Will. Donc là, tu as abordé plusieurs notions. Tu as abordé la notion de plateau, donc de plus progresser. Tu as abordé aussi la notion de méthode. Et moi, j'aimerais poser la question à Will. Comment est-ce qu'on choisit sa méthode d'entraînement en force? Donc, toi, par exemple, tu dis, tiens, j'ai un objectif dans X temps. Qu'est-ce que tu vas faire pour justement aujourd'hui te dire, ben voilà ce que je vais faire au fur et à mesure du temps pour arriver là, sans affronter un plateau et sans pour autant aller dans la blessure ou la trop haute intensité, comme on appelle ça?
Bah, déjà, si on est dans le cadre d'un crossfitter, donc une personne qui veut pas se spécialiser, qui veut progresser en force, mais tout le temps continuer à faire du crossfit, et il faut déjà avoir conscience qu'un programme de force, c'est compliqué mais faisable à appliquer dans ton entraînement parce qu'on a plein de paramètres qui viennent s'ajouter. Par exemple, quand on voit la difficulté que déjà les forceux, les powerlifters et les haltérophiles ont pour appliquer un programme d'entraînement de force avec des pourcentages précis, juste en ayant cet entraînement, juste entre guillemets, hein, ils ont un mérite fou parce que leur entraînement est aussi conséquent, mais avec ce programme de force, c'est compliqué parce qu'il y a les paramètres extérieurs de la vie, ils travaillent, il y a des stress extérieurs, les stress de la vie, bref, tout le monde connaît ça, et ça vient impacter la nutrition également, le sommeil, bref, tout un panel de facteurs qui viennent impacter votre entraînement. Donc des fois, c'est compliqué d'appliquer les pourcentages ou les charges qui sont données dans le programme le jour J. Et ça, faut en avoir conscience. Alors imaginez au CrossFit à quel point cela peut être compliqué lorsqu'on rajoute à tout ça, il y a toujours les mêmes paramètres extérieurs, mais en plus de ça, il y a à prendre en compte que peut-être que la veille, vous vous êtes tapé une séance d'intervalle rameur, bar muscle up, burpees, ou que peut-être vous avez mal récupéré de cette séance. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Donc, il faut déjà avoir conscience que il faut avoir un peu plus, pas du laxisme, mais je dirais d'intelligence d'entraînement, des fois de savoir qu'on ne pourra peut-être pas effectuer les pourcentages prévus, ou en tout cas peut-être se dire, ok, bah là, je fais techniquement, c'est pas en place, il faut que je diminue un peu parce que j'ai conscience que je n'ai pas récupéré de ma séance d'il y a deux jours, d'intervalle, de run, ou bref, d'un tas de choses, et que là, j'ai besoin de récupérer, et que faire la séance au pourcentage prévu, ça sera contre-productif, car je n'y arriverai pas, ou du moins, je l'exécuterai de la mauvaise façon. Et donc déjà, quand vous avez compris ça, c'est déjà un pas énorme fait vers le fait de devenir plus fort, parce que ça fait de vous un athlète qui adaptera son entraînement, et ce mot adapté, il est super important. Et bien sûr, bon, des fois, on n'a pas, si c'est une baisse de motivation parce que vous avez la flemme, bon, bah, il faut se prendre par la main et se sortir les doigts, comme on dit, hein. Mais surtout pas faire l'erreur, des fois, de ce que je vois trop, et c'est de se dire, ah, bah, je suis pas motivé, c'est la discipline. Oui, c'est vrai, quand on n'est pas motivé, c'est la discipline qui vous fera vous entraîner. Mais si vous n'avez pas récupéré, et on en parlera après, si vous avez des grosses courbatures et que vous ne pouvez pas effectuer la séance, ça ne sert à rien de se dire, ah, je vais la faire quand même, je vais me démonter, je vais faire les pourcentages, parce que ça peut aggraver la chose. Donc, comme tu l'as dit, Joanne, il faut être intelligent avec ça, et il faut, bah, on en parlera ensuite, mais à vraiment avoir des phases complètement différentes. On peut pas s'entraîner de la même façon toutes les semaines. On peut pas faire un 5x5 à 80% back squat toutes les semaines. C'est complètement bête. Et on peut pas faire les mêmes mouvements, les mêmes enchaînements, la même disposition au niveau des jours d'entraînement sur les mouvements de force que vous allez faire. Il faut avoir ce phénomène de, bah, moi, j'aime bien faire. Bon, après, c'est comme je fonctionne, hein, mais il y a d'autres méthodes qui existent qui fonctionnent très bien. Et peut-être que, du coup, en ce moment, je fonctionne comme ça et je changerai par la suite. J'évoluerai en fonction de ce que je découvre un peu à droite à gauche. Mais, les cycles de 12 semaines composés de 3 micro-cycles de 4 semaines, et ces micro-cycles de 4 semaines composés de 4 semaines complètement différentes au niveau du stimulus et de l'intensité, ça permet vraiment d'avoir cette adaptation et ce phénomène de palier de surcharge progressive qui va vous permettre d'augmenter votre niveau. Donc, ce que j'aime bien, c'est que, bon, il n'y a pas de graphique, j'ai pas des graphiques comme MIMS qui sont prévus, mais c'est-à-dire que dans ce micro-cycle de 4 semaines qui est incorporé dans ce cycle de 12 semaines, vous avez une première semaine de base, une deuxième semaine de construction, une troisième semaine d'overload, du coup là où on vient vraiment surcharger un peu l'organisme de par l'intensité et le volume, et une quatrième semaine de deload, où on vient récupérer, où les pourcentages ils diminuent considérablement et on vient vraiment se focaliser sur la récupération, la vitesse et des choses très simples. Et ça vous permet d'augmenter votre niveau progressivement, et ensuite quand il y a cette semaine de deload qui arrive après la semaine 3, et ben on redescend légèrement, mais on redescend bien moins bas que l'endroit où on a commencé. Et petit à petit, on re-augmente après sur le deuxième micro-cycle. Et ça, petit à petit, ça permet des adaptations. Et c'est ces adaptations qui vont vous permettre de progresser en force. Mais la chose qu'il faut retenir, si vous devez retenir quelque chose dans tout ce que j'ai dit, c'est que vous ne pouvez pas vous entraîner avec les mêmes pourcentages et tout le temps très haut chaque semaine. Il faut avoir des phases où on soulève moins lourd, mais très rapidement, des phases où on se lève un peu plus lourd, mais toujours avec de la vitesse, et des semaines où on se met lourd, peut-être avec un peu moins de vitesse, parce qu'on est proche du maximal. Et ensuite, avoir des semaines de complète récupération, où vraiment les pourcentages. Et une semaine de deload, là, je vous arrête de suite, hein, c'est pas, je continue à faire des workouts à bloc, et je descends à 80%, hein, sur une semaine de deload, on descend bien plus bas que 70%, hein. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Julianne, mais en tout cas, c'est les points oui. importants.
T'as donné un paquet de différentes pistes pour la suite de la discussion, et moi j'en souligne plusieurs. La première, c'est qu'est-ce qui se passe dans une affiliée ? Parce que dans une affiliée, vous suivez la programmation de votre coach, et donc il faut apprendre à lui faire confiance. S'il applique la méthodologie CrossFit de la bonne manière, vous allez normalement, il est censé étudier la fonctionnalité, donc le type de mouvement, l'amplitude, est-ce que je vais en squat tous les jours ou est-ce que je fais les squats de manière avec parcimonie, est-ce que je fais des poussées tous les jours. Et donc normalement, si on applique la programmation de la bonne manière en suivant la trame que vous pouvez trouver dans le level 2 pour étudier votre programmation au sein de votre affilié, normalement, ça prend en compte ces périodes de récupération, ces jours où normalement vous êtes en repos, on s'entraîne pas 7 jours de suite, etc., pour pouvoir faire ça. Et aussi, je pense à ça parce que moi, quand j'étais dans une affiliée, souvent on a des gens qui faisaient open gym plus les boîtes de la boxe. Et souvent, ce qu'ils faisaient en open gym, c'est con, mais le gars fait 5x5 au back squat, c'est dommage parce que le lendemain, il se trouve qu'il y a un gros wod avec plein de back squat. Et en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça élimine, ça enlève toutes les réponses hormonales qui se font dans les 24 à 72 heures post-effort max. Et donc, en fait, vous êtes juste en train de ralentir votre progression. Et en plus de ça, vous augmentez les risques de blessures. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Il y a, je pense, on va revenir là-dessus sur la récupération, le deload, la capacité de récupérer, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Ensuite, il y a forcément la variabilité, et ça va être le gros sujet de la discussion qui arrive. Mais il y a aussi un autre truc que tu as dit, Will, c'est la fameuse surcharge progressive, parce que oui, il y a le deload, oui, il y a la récupération, mais il doit y avoir l'intensité et l'intention dans ce que vous faites. S'il n'y a pas de stress, s'il n'y a pas quelque chose qui est nouveau pour votre corps ou quelque chose de plus dur, bah, il n'y aura pas d'adaptation.
Et ouais, et puis tu sais, il y a des fois, il y a un truc très simple, c'est que des fois des gens, et moi le premier, je l'ai fait l'erreur. Hein, quand je dis des fois des gens, croyez-moi, je suis souvent dans ces gens. J'ai fait ces erreurs, donc je peux bien en parler. Mais c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Des fois, comme il dit Julian, l'intensité, faut bien comprendre ce mot. Il peut être sous différentes formes. Et donc des fois, quand il y a des, par exemple, s'il y a un 5x3 où toutes les 2 minutes, vous avez 3 reps à effectuer à 70%. Ne mettez pas forcément plus lourd, faites-le simplement plus vite, c'est-à-dire mettez beaucoup plus de vitesse. Peut-être que sur 70%, il vous permet de vous concentrer encore plus sur la technique et sur l'exécution et en mettant beaucoup plus de vitesse. Et cette intensité, elle viendra de la vitesse et non forcément de la charge. Et c'est la même chose sur un workout. Quand des fois, je vois des personnes dire « Ouais, mais c'était trop facile, du coup, j'ai augmenté les reps. » T'es là « Bah non, en fait, va juste plus vite. » Si la récup, elle vous paraît trop courte, c'est que vous allez trop doucement. Donc, il faut bien comprendre ce phénomène d'intensité pour créer ce stress, et ce stress va créer une adaptation. Mais cette adaptation est possible qu'avec cette phase de récupération qui est suivie de ce stress, parce que sans ça, c'est pas possible.
C'est pour ça que ce qui est important de comprendre dans un brief, quand un coach fait un briefing ou quand un coach doit étudier sa séance, construit sa séance, fait son plan de leçon, eh ben, il doit étudier le stimulus de la séance. Et quand il doit le retranscrire au tableau et expliquer aux gens « aujourd'hui, on va aller se concentrer sur la vitesse et pas sur la charge, ce que vous devez ressentir, c'est ça », en fait, on doit donner des signaux physiques, parce que pas beaucoup de gens comprennent ce que c'est la vitesse, pas beaucoup de gens comprennent ce que c'est lourd, pas lourd pour eux, et donc d'expliquer les ressentis physiques, mais d'expliquer réellement ce qu'on doit ressentir dans la séance, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre le stimulus dont tu parlais, Will. Et donc ça, c'est un conseil pour les coachs, vraiment essayer d'exprimer au plus simple la manière dont vous allez établir le stimulus de la séance, et il doit être donné dans le brief.
Ouais, non, que ce soit en termes dans une affiliée comme Mims, elle en parle, ou Julian, ou pour une programmation type que vous effectuez en open gym, si le stimulus il est pas expliqué, c'est super important. Hein, il y a des coachs, comme Mims par exemple, je sais qu'elle est à cheval là-dessus, elle l'explique super bien. Si vous la voyez donner les conseils pour un workout du jour, vous allez voir que le stimulus, elle l'explique, et ça vous permet vraiment de savoir comment exécuter le workout, et ça fait toute la différence, hein, parce que des fois on ne comprend pas forcément les workouts, et c'est la même chose pour un workout que vous allez effectuer ou un entraînement en open gym via une programmation. Moi, je sais que les instructions, il y en a beaucoup, quoi. Quand je donne un workout, vous allez en haut sur les instructions, il y a des pavés, mais parce que j'explique le stimulus, je trouve ça important. Et ça fait toute la différence sur comment exécuter un workout et comment avoir cette intensité qui va permettre cette adaptation. C'est encore tout ça. Et pour remettre ça dans le contexte de la force, c'est ça qui va permettre de devenir plus fort et de progresser avec cette manière régulière dans le temps qui fera de vous un athlète fort. Parce que vous n'allez pas devenir fort en un cycle de 4 semaines ou un micro-cycle de 4 semaines ou un cycle de 12 semaines. Non, c'est l'enchaînement. Ça va peut-être vous faire progresser, mais c'est cet enchaînement dans le temps et cette régularité qui fera de vous un athlète de plus en plus fort.
C'est ce qui permettra aux athlètes de ne pas reproduire les mêmes stimuli tout le temps et donc de garder toujours cette même constance en termes de stress physiologique, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'ils changent le stress physiologique pour progresser. Et donc, si à un moment donné, en fait, vous reproduisez tout le temps le même stress physiologique, votre corps ne s'adapte plus et donc vous ne progressez pas.
C'est comme si vous allez lourd, ce qu'on disait au tout début, si vous allez lourd chaque semaine, il y a une recherche de 1 RM toutes les semaines. Alors là, bien sûr, si vous êtes dans le cadre d'une personne qui s'entraîne 3-4 fois semaine et qui fait juste les hautes de sa boxe, des fois quand il y a un heavy day, vous allez faire du lourd, ça termine sur un 1, il y a la possibilité d'augmenter si vous sentez bien, bref, peu importe ce que le coach vous a dit. Mais par contre, si vous êtes dans une programmation structurée et que votre objectif c'est vraiment de performer à un moment donné ou à une compétition ou avec un objectif bien fixé, non, il faut pas aller lourd chaque semaine, c'est super important.
Il y a un truc que je voulais évoquer là-dessus, c'est la force, ça prend énormément de temps à développer. Et donc, il y a très souvent, on voit que ce soit dans les box ou juste entre nous, on est assez frustré par cette progression qui est lente en force. Alors, si vous venez de zéro et que vous commencez, vous allez avoir une progression au début assez rapide. Mais si ça fait un moment que vous vous entraînez et que vous êtes assez complet, on passe pas d'un back squat à 120 à un back squat à 150 en un cycle de force. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment une progression qui est lente et qui va prendre beaucoup de temps. Et que ça soit à un niveau purement amateur comme le nôtre, en s'entraînant dans une affiliée 3, 4 fois, 5 fois par semaine, ou que ça soit même au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous voyez pas un athlète des Games passer d'un bench à 150 à 180 en une année. Ça va lui prendre quasiment toute sa carrière pour faire ça, potentiellement s'il a des facilités ou pas. Donc là-dessus, on est pas tous égaux, mais en plus de ça, ça prend énormément de temps. Mais il y a toujours la possibilité de progresser, qu'on ait 18, 20, 30 ou même 50 ans. Maintenant, il y a les nouvelles études qui montrent que quelqu'un qui ne vient pas d'un background d'athlète de haut niveau dans la force peut continuer à progresser. Si bien évidemment vous étiez powerlifter à 20 ans, vos barres maximales elles vont être quand vous êtes jeune et vous allez après descendre. Mais si par contre vous y mettez sur le tard, et ben vous pouvez toujours progresser. C'est juste que ça prend énormément de temps, qu'il faut avoir cette patience, qu'il faut suivre un plan d'entraînement. Pour avoir moi-même suivi le programme de Will sur le back squat 12 semaines, voilà, c'était vachement bien construit. J'ai jamais senti dans le dur, nerveusement, physiquement. J'étais quasiment jamais à l'échec. Et ça monte crescendo et il construit quelque chose, mais à la fin, il nous vend pas, hein. Tu vas voir, tu vas faire plus 30% sur ton PR. Ça marche pas comme ça. Voilà. Et lui-même se l'applique. Donc, soyez hyper.
Non, et puis, des fois, ça marche pas. Bah, tu me l'as bien, à un moment donné, je sais que tu m'as dit, ouais, bah, les séances, elles commencent à être dures, là, mais je sais que c'est pas le programme. C'est parce qu'en ce moment, je travaille énormément et du coup, ma récupération est moins bonne. Et tu vois, t'as eu cette intelligence de te dire, OK, tu vois, parce que souvent, même moi, pour l'avoir fait, des fois, on se dit, ouais, c'est le programme d'entraînement, ça va pas, là, ça marche pas, et on change complètement, et on s'enlève de cette régularité, consistance, de suivre, de croire au process, de donner une change au process. Et ça, c'est super important, parce que des fois, bah oui, comme tu l'as dit, bah, t'étais fatigué, tu tapais des journées de je sais pas combien d'heures au boulot, et t'avais un stress extérieur au boulot parce que tu veux bien faire, et automatiquement, bah, ça impacte sur ta forme, et les séances, elles te paraissent plus dures. Et quand, dès que tu prends un peu de récup, généralement, c'est la pichenette, là, tu te sens en forme, quoi. Mais, comme tu l'as dit, c'est important. Et pour revenir à ce que tu dis au tout début, bah, on peut pas en vouloir aux gens, des fois, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, des fois, on voit que tous les athlètes, on a l'impression qu'ils font des grosses barres tous les jours. Mais c'est les réseaux sociaux, on publie pas forcément, on publie ce qu'on a envie de montrer, on va pas montrer ces séries d'entraînement de début de cycle où on fait des reps légères avec beaucoup de vitesse, même si des fois il y en a certains qui le montrent. Mais voilà, faut en avoir conscience et faut prendre un peu de recul vis-à-vis de ça pour comprendre tout ce qu'on dit, quoi.
Et on comprend là dans tout ce que vous dites que le plus important, ben, c'est le temps. Forcément, donner du temps au temps, il y a la récup, la régularité, etc. Il y a aussi la notion, du coup, si on veut des résultats en force, ben, il faut qu'on maximise les adaptations physiologiques. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait pour maximiser ces adaptations? On a parlé d'exercices, donc il y a le choix de l'exo. Et c'est marrant parce que dans les 40 minutes de ce podcast, vous avez vu qu'on n'a pas parlé d'exercices. Donc en vérité, c'est le thème que je vais aborder après. Est-ce que le plus important, c'est les exercices ou c'est tous les facteurs qu'on associe à l'exercice? Et ça va être ma question pour Will dans un instant. Je pense que pour les exercices, si vous avez un exercice à choisir, il faut le choisir en fonction de vos objectifs personnels. Donc en fonction de là où vous êtes faible, c'est ce qu'il faut développer. Typiquement. Mais dès qu'on a fait ce choix ou qu'on a envie d'être complet, parce que souvent les gens ils ont un niveau uniforme partout, ils ont juste besoin de s'améliorer en fitness, donc de faire un petit peu de tout, d'améliorer toutes leurs conditions physiques. J'ai mon exercice. Maintenant, Will, comment je fais pour maximiser mon adaptation physiologique sur cet exercice? C'est quoi les variables qu'on peut modifier pour pas atteindre un plateau, pour toujours avoir cette surcharge progressive, etc. Qu'est-ce que je peux adapter?
Déjà, faut reprendre ce qu'on a dit. Donc, c'est ne pas s'entraîner de la même façon sur cet exercice toutes les semaines. Et aussi comprendre qu'on peut progresser sur un exercice donné sur lequel on a envie de progresser sans forcément faire cet exercice tous les jours. Il y a d'autres exercices qui vont venir en des exercices satellites qui sont autour, qui vont vous permettre de progresser dans cet exercice. Par exemple, c'est tout bête, mais on peut progresser au deadlift juste en faisant du back squat bien placé sans ceinture. Et moi, je l'ai vu. C'est parce que du coup, on peut progresser à ça au deadlift via un autre mouvement. Donc, il faut pas forcément, si on veut progresser au deadlift, faire du deadlift toutes les semaines, se taper des grosses séances et tout, etc. Vous allez juste flinguer votre système nerveux, mais ça, on en a parlé. Il faut avoir cette régularité dans cet exercice, mais également cette régularité dans les exercices satellites autour de cet exercice, ce travail accessoire qui vous permettra de vous améliorer ou peut-être d'améliorer votre posturologie sur cet exercice. Et encore une fois, pour cet exercice en question, il faut aussi avoir conscience, t'en as parlé tout à l'heure, Julian, mais de ne pas travailler de la même façon cet exercice, de la même façon dans le sens au niveau des pourcentages, du nombre de répétitions, de la récupération également. La récupération, elle peut être plus ou moins longue, et également de la façon dont vous allez bosser. Donc, on peut travailler cet exercice avec du travail semi-technique, donc des charges plus légères, où on vient travailler une technique en particulier. Si je prends l'exemple du snatch, bon, j'utilise des termes américains, donc les haltérophiles français, vous ne criez pas au scandale, mais on peut ne pas forcément faire faire que du snatch. Il y a du high hang snatch. On peut travailler du tall squat snatch pour travailler sa chute. Bref, il y a tout un tas d'exos semi-techniques qui vont vous permettre de progresser en technique sur cet exercice. Mais il faut également travailler son power snatch. Donc, il y a tous ces exos semi-techniques qui peuvent être applicables en power snatch ou en squat snatch. Et on peut travailler également son overhead squat pour travailler sa posturologie. Et cet overhead squat peut être travaillé également sous différentes façons, suivant ce que vous avez à travailler. Donc, c'est ça aussi l'art de la programmation, c'est de comprendre tout ça et de faire quelque chose de cohérent et de progressif. Parce que je pense que ce mot progressif, la progressivité, elle est super importante, aussi bien que le fait de varier, donc la variabilité. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir ces paliers et ces paliers qui vont monter crescendo. C'est un peu comme la bourse. Des fois, t'en parles, Julian, mais si on regarde la bourse à un moment donné, on voit que la courbe elle descend, mais on est proche sur 2-3 jours. Mais si après on regarde on se recule, on voit que la courbe en fait ça monte, ça descend, mais ça monte progressivement sur le long terme. Et ben c'est la même chose pour un athlète au niveau de la force. Donc il y a des fois des phases où on sera un peu moins fort, c'est vrai. Mais si on prend du recul et qu'on regarde sur 10 années, et ben vous allez voir que cette courbe elle monte constamment, que vous êtes de plus en plus fort. Et ça, c'est déjà, si vous avez Mims.
Je veux bien rajouter un truc sur ta. J'ai trouvé ça la dernière fois quand je parlais avec Élie.
Oui, au premier rang, Myriam au premier rang, c'est à toi.
Oui, c'est moi. Non, je disais pour ajouter juste ce que tu disais en termes de variabilité, en force aussi, il faut ajouter que tu utilises des différents types de régimes. Tu vas aller sur de l'excentrique dans certaines séances, puis après, tu vas aller sur des techniques, du lourd léger par exemple.
Même les pauses, hein. Tu dis, il y a toutes des formes que Sibyl a parlé, ouais, c'est ça.
Après, t'as de la plio, etc. Donc, en fait, tu prends vraiment tout ce qui est un système de forceux ou de bodybuilder dans leur construction de 4 semaines, en vrai. Et puis tu utilises toutes les techniques de force. Il y a plein de bouquins.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis pas étalé sur le sujet parce que je me suis dit après je voyais la tête de Julien, il voit que je suis parti et je vais partir très loin. En fait, et comme tu l'as bien dit, mais il y a un truc magique aussi on prend pas le temps des fois au CrossFit alors que quand on suit la méthodologie CrossFit, c'est dedans. Bah l'explosivité, cette vitesse, la pliométrie, c'est ultra important. Si vous voulez être un athlète fort, et n'oubliez pas un snatch, un clean ou quoi, ça reste grossièrement parlant un saut. Hein. Et donc automatiquement, il faut avoir cette explosivité. Moi, je vois trop d'athlètes CrossFit, vous voyez, on les voit sur des reps au back squat, sur des 5x5 à 75% et tout lent. Bah non, mettez moins lourd, mettez plus de vitesse. Et après, ça rejoint sur la pliométrie que vous allez faire après. Faites de la plio. Mais alors, plio, encore une fois, bon, je vais pas m'étaler, Julian, mais sous différentes formes. Vous avez de la plio départ arrêté, du seated box jump. Vous pouvez avoir également des broad jump, mais des broad jump 2 pieds, 1 pied, départ arrêté, des sauts continus, des sauts arrêtés. Bref, il y a tout un tas de choses. Même des single leg box squat. Il y a plein de choses qui sont possibles, qui vont vous permettre de travailler cette explosivité parce que faut bien comprendre que dans l'équation de la force, il y a la vitesse. Hein. Donc, si vous n'avez pas compris ça,
on en revient encore à une chose là, de t'écouter et Mims également. C'est en fait, vous faites que dire varier. Puis tout à l'heure, en fait, vous dites voilà tout ce qu'on peut faire et en fait, il faut tout faire. Si vous voulez progresser globalement, il faut stresser votre corps en permanence.
Ouais, mais de manière structurée et progressive.
Voilà, Will, il y a un truc aussi dont tu m'avais parlé en perso, mais on parlait du squat qui, je sais pas pourquoi, mais pour moi, le squat, c'est un peu l'expression de la force au CrossFit, c'est le plus utile au CrossFit. Et tu me disais, mais en fait, le squat, beaucoup de gens squattent en permanence et essayent de mettre du poids là-dessus pour dire qu'ils vont progresser, mais en fait, leur problème ne vient pas spécialement des jambes en particulier, mais il vient beaucoup plus du gainage, etc. Donc, c'était aussi faire une analyse avec. Ouais. Quelqu'un ou tout seul, mais en tout cas faire une analyse de pourquoi au squat aujourd'hui j'arrive pas à mettre plus lourd. Peut-être que c'est
regarde une voiture. Tu prends l'exemple.
Voilà, c'est aussi le gainage.
Tu prends l'exemple d'une voiture. Tu vois, t'as beau avoir le plus gros moteur du monde sur une voiture, si t'as le châssis qui est pas efficace ou même les pneus, donc pour transmettre cette énergie, cette puissance de la voiture au sol, ta voiture elle ira pas vite. C'est la même chose pour un athlète. Si t'as beau avoir le plus de force possible dans tes quads ou dans ta chaîne postérieure, si tu n'as pas un bon gainage, tu n'arriveras jamais à le transmettre. Et c'est exactement ce que je te disais. Bah, au bout d'un moment, il faut comprendre ça et il faut travailler. C'est pour ça qu'il y a ce travail accessoire annexe à ce mouvement qui vont te permettre de t'améliorer sur ce mouvement qui est super important. Et également, ce gainage, il s'acquiert pas forcément en faisant du 5 x 1 à 95%. Il s'acquiert dans ta phase de construction de bulle que tu as au tout début du cycle où il y a plus de volume léger parce que c'est très faux. On met trop de volume trop lourd et ce volume léger va te permettre d'acquérir ce gainage, cette posturologie aussi, qui te permettra de transmettre cette force. Et il y a également tous ces travaux accessoires, bien évidemment.
Il y a, et ouais. Là, je vais prêcher pour ma paroisse, Mais du coup, il y a aussi ce côté mobilité. Alors, il y a des mouvements dans lesquels avoir une, être mobile n'a que peu d'importance, si ce n'est de réduire un peu le risque de blessure qui va être lié à ça. Mais il y en a certains, comme le squat, par exemple, où si vous n'êtes pas mobile, la première chose contre laquelle vous allez lutter avant de lutter contre la charge externe qui est sur votre dos, c'est vous-même. Si vous n'êtes pas capable de faire un air squat avec le buste droit, et ben vous allez, et vous avez les genoux qui rentrent, si vous ajoutez de la charge à ça, vous allez non seulement lutter contre la charge, mais avant, vous allez lutter contre vous-même. Donc, si on réfléchit bien, vous allez du coup mettre moins lourd, ou en tout cas mettre, faire moins de répétitions pour le même poids. Si votre position est parfaite et qu'il n'y a aucune force de frottement, ben c'est uniquement la charge externe. Et donc, je reprends le truc de la voiture que Will disait avec le châssis, là, mais du coup, on dirait qu'on est dans turbo. Mais du coup, en gros, si jamais vous roulez et que vous freinez très légèrement, vous avez les plaquettes de frein qui touchent tout le long, ben en fait, vous allez consommer vachement d'essence pour aller à 120 km/h. Si juste vous relâchez les freins, pour la même puissance demandée et la même consommation, vous allez aller à 140. Et ben avec la mobilité et le squat, c'est un peu la même chose. Si vous libérez toutes les tensions et que vous bougez de manière fluide et que vous résistez pas contre vous-même et que vous luttez pas contre vous-même, vous allez pouvoir avoir vachement plus de force, qui à la fin, c'est le but, c'est la charge la plus lourde que vous voulez soulever ou le plus de fois possible, etc. Donc, y a tout ce travail-là aussi également à prendre en compte dans le travail de la force.
Et comme vous le rappelez des fois dans vos différents posts sur GoWood, quand on est mobile et qu'on est automatiquement plus souple, la contraction est meilleure. C'est automatiquement, la contraction est meilleure, donc on peut développer plus de force. Et faut en avoir. Alors, bien sûr, il y en a des fois, ils vont dire oui, mais moi, des tendons bien pas souples du tout, ça permet vraiment de d'avoir un peu plus de force. Non, mais c'est stop, arrêtez.
Oui, non. Ouais, et puis en fait, ça va être trop élevé.
Ça va être complémentaire du coup, parce que du coup, l'exercice de force va venir améliorer la mobilité et la sécurité autour d'une articulation donnée, et inversement, la mobilité va aider à la force. Donc, il faut bosser les deux en soi. Et donc, pour résumer un peu ce qu'on a raconté là, comme tu disais, Tib, Mims et Will, ils parlent beaucoup de variance. C'est marrant parce qu'en CrossFit, on parle que de ça, de la variance, justement pour éviter le plateau. Donc, en force, une fois que vous avez choisi votre exo et votre objectif corporel, je sais pas moi, tirage poussé sur le haut du corps, tirage poussé sur le bas du corps, etc. Ensuite, il faut regarder vraiment, et c'est le plus important, ce que vous pouvez faire varier. Du coup, l'intensité, le volume, le repos entre les séries, le repos entre vos séances d'entraînement, les intervalles. Est-ce que je fais des intervalles à haute intensité, que ce soit en endurance ou en force? C'est la même chose. Tout ce qui est progressivité. Et la fréquence, encore une fois, des séances sur cette partie du corps. Le deuxième truc dont on a parlé, et je résume un petit peu, c'est que pour devenir fort, tout simplement, il faut quand même soulever lourd. Il n'y a pas d'autre secret. Et lourd avec de l'intention dans cet exercice. Et c'est là qu'on parle de la notion d'intensité. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à une citation de Glassman. « Soyez impressionné par l'intensité, mais pas par le volume. » Typiquement, en force, c'est encore plus vrai. Si on fait du lourd, et quand je parle de lourd, c'est vraiment plus de 85% de votre RM ou plus de 80%, il faut beaucoup de repos pendant votre séance entre les séries, mais aussi entre les séances où vous allez faire aussi lourd. Mais ça, je te laisserai commenter là-dessus après, Will, mais le repos est capital.
On peut même reprendre cette phrase de Glassman. Elle est vraie aussi dans le sens où des fois, quand on voit des vidéos d'haltérophiles en pré-compétition faire des barres à 80-85% de leur max, mais avec une vitesse et une facilité déconcertante. Et c'est pas parce qu'ils ont 85% de leur RM, donc c'est des fois, ça peut être 200 kilos au clean and jerk, et on les voit le faire à une vitesse. Et moi, je suis beaucoup plus impressionné par ça que des fois leur max en compétition, parce que je me dis, la vitesse et l'exécution parfaite qu'ils sont capables de mettre à 200 kilos ou à 85%, ça m'impressionne beaucoup plus. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Des fois, on voit des athlètes faire des squat clean des fois à 160, mais tu sens que leur corps, il est pas préparé. Que leur corps, ils le font parce qu'ils ont de la force, mais il est pas préparé leur corps. Et tu sais que c'est limite. Et je préfère un athlète qui va me faire un 150 avec un beau squat, une belle mobilité, une remontée ultra facile, une belle posturologie et une technique propre. C'est beaucoup plus impressionnant. Et ça rejoint ce que Glassman disait, ce que tu rappelles. C'est faut être impressionné par ça parce que ça fait toute la différence et ça vous permet d'être un athlète fort.
Et je pense que après, pour parler un petit peu de blessure, forcément, si on s'expose trop au stress, c'est pas le stress le problème, c'est pas l'exercice en soi le problème. Souvent, il y a quelqu'un qui va vous dire « je me suis blessé en deadlift ». C'est pas le deadlift le problème. Le problème, c'est l'athlète et sa position, sa mécanique, sa constance, etc. Mais le problème, c'est surtout qu'il a appliqué trop de stress à un moment où il n'avait pas assez de tolérance à ce stress. Donc encore cette notion de progressivité dont parlait Thibaut, et ça me permet d'embrayer sur la prochaine phase qui est pour les novices, parce qu'on a forcément beaucoup de gens qui commencent le sport, qui écoutent le podcast ou qui vont commencer soit tout seul dans leur garage gym, soit dans une affiliée. Eh bien, bon, forcément, je prêche pour ma paroisse, mais allez dans une affiliée parce que justement, vous n'aurez pas besoin de réfléchir sur le schéma, le stimulus, l'intensité, parce que la communauté va vous pousser dans cette intensité, etc., de manière sécurisée. Mais Mims, ma question, elle est pour toi. Si on est novice et qu'on veut bosser sa force, comment est-ce qu'on doit commencer et qu'est-ce qu'on doit faire?
Bon, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'en gros, ce qu'on doit faire, c'est commencer par privilégier la mécanique avant de privilégier le lourd, ça c'est sûr. Et donc, si un jour vous arrivez dans une séance et que c'est vraiment du lourd et qu'on doit aller faire du back squat, par exemple, une 5 reps, et ben, dans ce cas-là, on ne va pas du tout aller sur ce type de schéma, mais on va plutôt se concentrer sur peut-être 10 reps et ça sera lourd pour la personne. Et donc, on va aller privilégier la mécanique. Donc, en fait, on va essayer d'avoir des sensations plutôt de lourd, tout en gardant un aspect mécanique et sécuritaire qui est tout le temps protégé. Et après, on ira augmenter progressivement les charges pour aller vers un objectif de force pure.
Et ce qui est bien, je pense, quand on est novice, c'est que quelle que soit la chose qu'on fasse, on va avoir des adaptations. Donc, c'est ça qui est trop bien. Et c'est justement pour ça que souvent les débutants tombent dans les pièges quand ils rejoignent les affiliés, c'est que en fait ils s'entraînent de manière sérieuse et forcément au début ils ont un progrès de fou, ils progressent dans tout, ils font des RM dans tout et c'est vachement motivant. Mais le problème c'est que souvent ça arrive à un piège et on tombe vite dans le surentraînement. Et là j'ai une question pour Tib. On parlait justement des tissus, des tendons, etc., de la tolérance, de l'adaptation et du fait que la force ça prend du temps. Je pense que les muscles ils s'adaptent plus vite que le tissu. Et les tendons, si je dis pas des bêtises, est-ce que tu peux nous en dire plus physiologiquement, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'il faut procéder?
En fait, c'est pas vraiment que les muscles s'adaptent plus vite. Le muscle en lui-même, c'est pas simplement juste la cellule musculaire ou les fibres musculaires, c'est également le côté tendineux, également le côté osseux. Donc en fait, le corps quand il s'adapte, il adapte la partie la plus faible de sa chaîne. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez une fragilité tendineuse, c'est vos tendons qui vont être le facteur limitant de votre progression. Et donc, c'est eux qui vont devoir se renouveler. Donc, c'est ça qu'il va falloir aussi respecter dans votre progression. Et donc, ce qui est assez délicat pour gérer à la fois ce plateau de progression et où est-ce qu'on doit mettre la barre, c'est que c'est assez délicat. On n'a pas spécialement un feedback immédiat de notre corps qui nous dit « Attention, là, tu as trop poussé ». Souvent, le moment où on l'a, il est un peu trop tard. Donc c'est pour ça qu'on reparle encore de progressivité, c'est-à-dire dans le cas du corps humain, on ne peut pas tenter quelque chose et voir si ça passe, parce que si ça ne passe pas, ça va vous coûter très cher. Donc au contraire, il faut y aller hyper, hyper, hyper progressivement, et à un moment donné, ça va vous dire « attention, là c'était la limite, redescends un petit peu ». Après, le corps, il est hyper, hyper fort, c'est-à-dire qu'il est hyper intelligent et il sait se reconstruire en permanence. Donc vous allez avoir… On a parlé tout à l'heure des tissus mous comme les tendons ou les ligaments. Donc, il a été prouvé par la science qu'en effet, si vous mettez à stress vos ligaments en permanence, ils vont s'épaissir et se renforcer pour vous protéger encore plus l'articulation. Mais ça marche aussi au niveau osseux. C'est-à-dire qu'on va voir que si jamais vous avez une traction osseuse, donc il faut savoir que le muscle, hein, pour faire un truc un peu bref, mais le muscle s'accroche sur l'os, en gros, c'est pas exactement comme ça, mais il s'accroche sur l'os et il vient tracter l'os, ok? Si vous mettez une pression, c'est-à-dire que le muscle va tracter tout le temps l'os, et ben l'os, il va falloir qu'il réagisse et qu'il se renforce et qu'il recrée de l'os, ok? Autour, pour être sûr que ça, c'est hyper, hyper solide. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on est gamin, si on se casse le bras, il sera hyper fort au moment, pile à l'endroit où on a cassé, il sera encore plus fort qu'avant. Oui, c'est adapté, il a recréé quelque chose encore plus solide pour être sûr que ça n'arrive pas. Donc, j'ai pas vraiment une réponse supra précise à dire qu'est-ce qui bouge ou quoi, parce que c'est le tout et ça dépend un peu de chacun et de la fragilité de chacun. Ce qui est sûr, et je pense que de toute façon, on va faire le lien derrière, c'est que il faut prendre soin de votre corps et de vos articulations. Et pour ça, il y a à la fois le principe de progressivité, à la fois la mobilité, mais il y a aussi l'hydratation et la nutrition. Et c'est une partie qui est sous-évaluée complètement, mais où on voit, et malheureusement dans notre cabinet, on voyait ça aussi, c'est des personnes qui s'entraînent très, très, très fort, qui font tout ce qu'il faut d'un point de vue mobilité, mais également entraînement, plan d'entraînement, respect des temps de repos, mais qui par contre, en fait, ne nourrissent pas correctement leur corps, qui fait que le corps ne peut pas recréer de la fibre de collagène correctement et répondre à ce stress-là. Et donc ça, c'est une question que j'avais en perso pour MIMS. Mais c'est, est-ce que tu peux nous donner des tips sur si je suis dans un cycle de force, qu'est-ce que je dois, comment je dois me supplémenter, quel est l'effort que je dois faire pour éviter ces blessures-là et permettre à mon corps de gérer ce stress.
Alors, du coup, c'est le moment où je vais partir en...
Le schéma.
Non, déjà, en termes de tips simples, si on parlait d'hydratation, c'est quelque chose de primordial. Et ça, souvent, les gens l'oublient parce que c'est quelque chose de tellement simple. Il y a des études qui montrent que si on a une hydratation qui baisse, on peut avoir 4% de sa force qui diminue si c'est sur le bench. Typiquement, vous n'êtes pas hydraté, vous avez déjà votre force qui diminue sur un exercice de force. Après, vous avez tout déséquilibre avec l'hydratation des électrolytes. Et l'équilibre électrolytique, donc on va aller sur le magnésium, le potassium, le calcium, le sodium, ça permet ici au corps surtout d'avoir une bonne balance et surtout un meilleur équilibre en termes d'acidité. Donc c'est un raccourci, mais ça montre des moyens protecteurs pour pouvoir justement protéger la performance et protéger tout l'environnement musculaire. Après, quand on parle de nutrition, en fait, on va aller, c'est pas un gros mot, on va aller parler de différentes hormones, on va aller parler des hormones androgènes, la testostérone, et savoir comment est-ce qu'on va l'optimiser par la nutrition. On va parler de l'hormone de croissance et on va parler aussi des éléments peptidiques comme l'insuline qui ont un vrai rôle dans l'augmentation de la force ou même de l'endurance de force qui après se traduira par la force pure un peu plus haut dans la pyramide. Et donc, beaucoup de gens le sous-estiment, mais par exemple, le précurseur de la testostérone, c'est le cholestérol. Et moi, je vois dans mes suivis, beaucoup de gens que je suis, j'augmente souvent les gras qu'ils consomment. Et ils me disent « Ouais, mais là, t'es sûr que je mange autant de gras dans ma journée ?» Parce que je dis « Oui, il faut. » À un moment donné, c'est important d'augmenter ça, surtout pour une personne qui s'entraîne. Et alors, est-ce que tu peux mettre le schéma rapidement ? Ça, c'est pour montrer quel rôle ça joue. On dirait plein de gros mots qui sont affichés, mais si on regarde tout en haut à gauche, vous avez le cholestérol qui est la brique de base pour aller faire fonctionner toutes les hormones ici stéroïdes, hormones sexuelles, etc. Et en fait, si on regarde déjà pour que cette transformation se passe, il faut déjà une bonne capacité thyroïdienne. Donc la thyroïde, vous avez ici cet élément-là qui va permettre de booster votre métabolisme. Et du coup, va transformer en prégnénolone, qui va se transformer ici en progestérone et qui se transformera en cortisol à un moment donné. Donc, ça montre déjà aussi un rôle dans la gestion du stress ici pour aller conserver un peu plus bas sa testostérone. Je vais expliquer ça. Donc, si vous regardez dans le schéma descendant, plus bas ici, vous allez construire tout ce qui est testostérone. La testostérone qui se transformera en œstrogène à un moment donné. Donc, en gros, vous avez cholestérol qui va aller transformer dans les hormones qui sont essentielles comme prégnénolone et après cortisol. Et plus bas, vous aurez une transformation aussi de ces cholestérol en testostérone et en œstrogène. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on ne mange pas de cholestérol et qu'en plus une personne qui est stressée, elle va se retrouver à aller avoir très peu ici de briques de base, pomper toutes ces hormones ici pour aller fabriquer du cortisol pour faire face à son stress, et on n'aura pas beaucoup de testo. Alors, déjà, ça, c'est un problème. Après, c'est aussi pour ça qu'on voit chez les personnes qui sont, par exemple, anorexiques ou quoi que ce soit, qui perdent totalement les fonctions sexuelles. Parce qu'on a ici toute une déficience en termes d'hormones sexuelles qui ne sont pas retransmises ou retranscrites. Donc ça, c'est très important de prendre ça en compte. Et tu peux enlever le schéma, mais ça c'est important. Il y a une étude sur des hommes qui ont subi des entraînements physiques intenses pendant 8 jours sous restriction calorique et privation de sommeil. Donc là, je parle notamment des acides gras. Okay. Ça aboutit à une chute de testostérone totale et libre de 45%. Donc ça veut dire qu'une personne qui ne mange pas assez de calories, et puis en plus si elle n'a pas forcément une personne qui dort correctement, elle a sa testostérone globale qui va diminuer donc presque de moitié. Tout en sachant qu'à partir de 35 ans, cette hormone-là, elle baisse de 1 à 3% après 35 ans par an. Donc, ça veut dire qu'on se met que des bâtons dans les roues si on ne prend pas soin de ça. Et quand on parle de testo, si vous voulez faire tester ça dans vos prises de sang, vous ne pouvez pas utiliser que la testostérone. Il faut utiliser la testostérone totale. Il faut aussi faire doser quelque chose qui s'appelle la SHBG. En fait, c'est une protéine qui transporte la testostérone. Et quand la testostérone, elle est transportée, elle n'est pas active. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la testostérone libre. Et ça, c'est ce qui permet de voir si on est dans les normes et qui nous permet de bien fonctionner. Et c'est elle qui privilégie la masse maigre, les muscles, et qui vient, entre guillemets, entraver la construction de masse grasse. Donc, la testostérone, elle est primordiale. Et donc, un des bons moyens de pouvoir la stimuler, c'est déjà de manger assez gras. Après, il y a aussi des plantes aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir booster l'effet de la testo pour éviter qu'elle se transforme en œstrogène trop rapidement. Ça, c'est plutôt, il y a des moyens chimiques hein, qui ont été utilisés dans le bodybuilding, mais naturellement aussi, par la nutrition, il y a des possibilités, l'ortie racine, ce genre de choses, c'est des choses qui boostent aussi ce taux. Et après, c'est du côté de l'insuline. Les gens maintenant qui ne mangent plus assez de sucre, parce qu'ils ont l'impression que c'est un gros mot, eh ben, ils vont dans le cadre du sport, hein, attention, sans pathologie. Du sucre naturel. Du coup, sans que ce soit vraiment... de temps en temps. Mais du coup, tout ce qui est glucides, ça va nous permettre d'avoir un pic d'insuline. En fait, l'insuline, c'est elle qui régit la gestion du sucre. C'est une hormone de stockage qui permet de stocker le sucre dans le glucose, dans les muscles, dans le foie, etc. Et quand on se coupe de ça, en fait, il faut se dire que en fait, l'insuline, c'est anabolisant. Donc, l'anabolisme, c'est ce qui permet de construire la masse musculaire. Catabolisme, c'est l'inverse. Quand vous êtes en hypoglycémie, eh ben, vous faites l'effet inverse. Vous allez aller sur de la protéolyse, etc. Et vous allez avoir une destruction de votre masse musculaire qui sera effectuée en réponse à ça. Donc, non seulement d'avoir une bonne consommation de glucides, ça va vous permettre de signaler l'insuline, qui va vous permettre de pouvoir stimuler quelque chose qui s'appelle mTOR, et donc l'anabolisme, et donc de construire du muscle. À l'inverse, c'est totalement délétère, et donc on se retrouvera à être dans les choux, quoi. Et d'ailleurs, l'insuline, si elle n'est pas assez bien produite dans le cadre d'un exercice, ou si vous ne mangez pas de glucides, vous retrouvez souvent à avoir votre part de testo libre qui baisse aussi. Donc, tout dépend chez les individus. Chez les diabétiques, ça change. Ça devient l'inverse. Par contre, chez quelqu'un de sain qui s'entraîne, a besoin de ça pour aussi élever son taux de testo.
Ça rejoint ce que, tu sais, des fois, on disait dans les autres podcasts, encore une fois, mais souvent, le problème des personnes qui sont là, je ne progresse pas en force alors que je m'entraîne correctement. Et c'est vrai, ces personnes s'entraînent correctement, d'une bonne façon, ou à la boxe, ou bien avec un programme, peu importe. Et toi, tu les as aussi des fois en consultation ou avec ton application de nutrition. Mais le problème de ces personnes, c'est souvent, il vient de la nutrition parce qu'ils ne s'alimentent pas assez. Et aussi oui. Peut-être de la mauvaise façon, comme tu l'as dit. Moi, je sais que parce que tu me le rabâches sans cesse, mange gras, mange plus gras, mange plus gras. Et c'est vrai, tu as raison, non, mais t'as complètement raison. Et souvent, ce problème, moi, je le vois aussi avec les athlètes, ça vient de la nutrition et ils s'alimentent déjà pas assez, malheureusement. Oui. Donc, automatiquement, ça pose problème. On devient pas plus fort en mangeant rien du tout, hein. C'est au bout d'un moment, on reste des humains et c'est dommage parce que il y a quand même pas mal de choses assez, tu vois, quand on t'écoute parler ou quoi, c'est quand même on peut avoir des petits réflexes assez simples à mettre en place au quotidien, ouais. Progressivement, encore une fois, de manière progressive dans votre quotidien, et ça peut vous permettre d'être plus fort.
Il faut un léger surplus calorique, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Il ne faut pas tout le temps être en déficit calorique si vous voulez construire de la masse musculaire ou construire juste ou progresser. Il faut que vous ayez chaque jour ce léger surplus calorique quand vous êtes dans cette démarche-là pour pouvoir progresser. Sinon, en fait, sinon, ben, vous y arriverez pas. Après, j'ai
Les crossfitters, ils adorent être en déficit calorique pour sécher et être striés parce qu'on assimile toujours un athlète fort et fit à un athlète qui a les veines qui ressortent sur les abdos. Mais Fraser nous l'a prouvé, ou Justin Medeiros, c'est pas le cas. Et vous pouvez être comme ça toute l'année, c'est pas possible. Donc, c'est comme la force. On peut pas être au top de sa force toute l'année. C'est la même chose. Donc, je trouve ça cool que tu le rappelles.
À l'époque, c'est ce qu'on voyait avec Camille Leblanc-Bazinet, qui était une des femmes les plus performantes, et c'était celle qui physiquement était la moins attractive. Aujourd'hui, on peut voir, elle est plus sèche dans son système de body. Mais en fait, c'était elle qui permettait de pouvoir tenir sur une période des Games parce qu'elle avait de la réserve, parce que justement, ça lui permettait de construire les bonnes hormones, de simuler les bonnes choses.
Regarde Fraser. Fraser, tu le voyais en off-season, il était un peu gras, bon pas gras non plus de fou, mais quand même un peu grassouillé. Et par contre, ça l'empêchait pas d'être toujours fit. Et d'un coup, tu le voyais arriver en pré-games. Tu disais, mais c'est qui est cette personne? Le buffle sur son torse qui était une petite vache. Il y a 2-3 mois, c'était devenu un buffle énervé avec des veines. qu'est-ce qui se passe, bordel?
Mais c'est Laura Horvath aussi. Quand tu prends une Laura, les gens la critiquent tout le temps sur son physique. Et c'est un physique performant au bout du compte. Et aujourd'hui, la performance, elle n'est pas synonyme d'un corps qui est tracé. En fait, elle est liée à la performance telle qu'elle. Je peux dire des choses sur les compléments alimentaires, je vous dirai après.
Vas-y, oui.
Non, mais je disais, c'est ce que Mimsel dit, hein. On assimile vraiment, et c'est dommage ce fait de voir un athlète des fois strié et ultra sec avec 2-3% de masse grasse en disant, oh, il est fit, oh, il soulève lourd. Mais souvent, non, c'est dommage.
Si on regarde un peu pas les préjugés, mais si tu regardes un peu l'homme préhistorique ou l'humain fonctionnel d'il y a 100, 150 ans en photo ou les dessins, les représentations, etc., tu vois que c'est tout l'inverse du mec qui cherche à avoir ce côté esthétique bodybuildé et il est à fond dans la fonctionnalité. Et que typiquement, les dessins et ses représentations ne représentent pas du tout quelqu'un qui est sec, mais représentent quelqu'un qui est prêt à affronter à peu près n'importe quelle tâche et à exécuter les tâches de la vie quotidienne. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que dit Mims avant qu'on enchaîne sur les suppléments, etc. Mais on parle beaucoup de trois choses, souvent quand on parle de force ou de potentiel athlétique. On parle du côté génétique, donc forcément les prédispositions génétiques. Et bien sûr, il y a des gens qui naissent avec des prédispositions aux fibres rapides dont parlait Thibaut et qui typiquement sont super forts en sprint ou en chargeur lourde, etc.
On parle déjà des Vosgiens ? On va en
mentionner direct. Ça, c'est le troisième type de fibre, la fibre Vosgienne.
J'étais obligé, désolé. C'était trop tentant.
Et après, à part le génétique, sur lequel on peut influencer en vérité, ça c'est une autre question pour Mims, il y a bien sûr le lifestyle. Et donc ça rejoint un peu ce que tu dis, Mims, c'est comment tu manges, comment tu dors, à quel point tu es soumis au stress, est-ce que tu fumes, est-ce que tu bois, est-ce que tu bois assez d'eau. Je parlais d'alcool juste avant, mais là, je parle de l'eau. Et ensuite, les adaptations, comment tu t'entraînes. Et donc, en gros, moi, ma question, c'est oui, si on est né avec une génétique qui n'est pas une génétique d'un athlète de haut niveau, est-ce que j'ai encore le potentiel d'influencer sur cette génétique et d'augmenter mes bénéfices futurs?
En gros, ce qu'on prend en compte en général dans la performance physique, c'est génétique plus environnement égale phénotype. Donc, ça veut dire qu'en gros, notre génétique, oui, elle est présente et c'est elle qui va nous permettre d'être ce qu'on peut être de base, mais elle n'est pas dans le marbre. C'est quelque chose qui peut changer en fonction de tout ce qui gravite autour. Si vous vivez à la montagne, par exemple, et que vous avez l'occasion d'aller faire du ski, vous allez changer votre génétique pour, à un moment donné aussi, être plus performant dans ce type d'éléments. Et c'est ça qui est fou et c'est ça la force humaine. Et donc, on n'est pas voué à un échec. Si, par exemple, on n'a pas des parents de sportifs de haut niveau, ça ne sera pas pour nous, quoi, c'est sûr.
Et il y a pas mal d'athlètes. Moi, je sais qu'il y a certains comptes sur Instagram que je suis parce que ça me motive, ça m'inspire. Et je trouve des fois, on perd un peu cette vision d'Instagram de suivre des gens qui nous inspirent. Et il y a des athlètes qui ont 37-38 ans, réalisent des barres énorme et progresse en force. Par exemple, il y a Blaine McConnell pour citer que lui, mais il y en a d'autres. Et quand on voit, quand je vois ça, moi je me dis, bah, tu vois, c'est en fait en mettant les, comme tu l'as dit, Mims, les choses de manière progressive dans le bon sens, peut-être dans une routine. Et ben, c'est possible de contrer cette génétique et de s'améliorer. Et bien sûr, bon, vous n'allez pas forcément snatcher 180 kilos ou 160 kilos comme lui à 38, 39 ans, mais qui est son père. Hein. Mais peut-être ça représentera plus 10 ou plus 15 kilos sur votre père au snatch. Peut-être passer 35 ans, c'est possible. Bien sûr, comme je crois que c'est Julian ou type, vous l'avez dit avant. Bien sûr, si vous n'étiez pas, vous n'avez pas eu un passif de sportif de niveau, parce que là, au bout d'un moment, oui, on a épuisé un peu on a épuisé les réserves de dans le sens où on est déjà allé chercher dans ses capacités physiques et génétiques, et on est déjà allé chercher loin. Donc, c'est vrai que ça devient plus compliqué.
Et maintenant, pour passer la parole à nouveau à Mims sur la supplémentation, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on mange déjà assez de cholestérol, si on mange bien et tout, qu'est-ce que je peux encore optimiser derrière?
Alors en fait, déjà, vous pouvez optimiser, par exemple, les choses qui vous permettent, après la séance, de mieux récupérer. Alors, est-ce qu'il faut tout de suite consommer j'ai souvent cette question. Par exemple, une collation post-workout pour avoir rentré dans cette fenêtre anabolique? Non, parce qu'en vrai, vous avez quand même, à l'inverse de l'insuline, vous avez le glucagon qui vient décharger le glucose de votre foie pour l'amener dans vos muscles. Et après une séance, c'est ce qui se passe. Donc, vous avez encore cet effet-là qui permet de pouvoir ramener du sucre dans vos muscles. Mais vous pouvez prendre cette collation une heure après, au moment où vous avez bien digéré, surtout en crossfit, quand on a fait de l'intensité, on n'a pas forcément besoin de manger tout de suite, on n'a pas envie. Mais d'avoir des protéines qui sont bien constituées avec un apport de glucides. Si vous pouvez privilégier une protéine qui est riche en leucine, c'est intéressant parce que la leucine, ça vient stimuler aussi le système anabolisant. Et donc, ça permettra de pouvoir garder encore plus de potentiel de construction de masse musculaire. Après, il y a des choses comme dans la créatine, on en avait déjà parlé. La créatine, c'est quelque chose qui, dans le système de la force, est intéressant puisqu'il vient améliorer la première filière, filière énergétique, où la filière la plus puissante, avec un stock présent donc de phosphocréatine qui permet de transformer l'ADP en ATP, les monnaies énergétiques. Et donc, c'est aussi un complément qui peut être efficace pour améliorer cette première filière. Après, il y en a un autre, on voit souvent Jeff Adler qui en parle, c'est la bêta-alanine. En ce moment, il dit « Ah, moi, j'adore la bêta-alanine ». Bon, je le dis avec un mauvais accent, mais du coup, la bêta-alanine, c'est intéressant aussi, et surtout en crossfit, parce que ça vient cibler plutôt l'endurance de force. Et la bêta-alanine, quand elle est ingérée, elle est transférée en carnosine. Et la carnosine, c'est un tampon, en fait, de l'acide qui est généré par l'exercice, donc les ions hydrogène. Et donc, ça permet de pouvoir avoir cet effet tampon, avoir moins d'acidité dans le muscle et donc d'améliorer la longueur de l'effort. Donc, la bêta-alanine, elle a fait ses preuves là-dedans. Donc, indirectement, ça pourra améliorer votre force. On a parlé des électrolytes avec cet équilibre du pH, l'équilibre hydrique. Un bon système électrolytique, ça permet d'avoir une bonne conduction nerveuse aussi et contraction musculaire. Donc ça reste aussi un point important. Il y a la vitamine D qui est importante. Ça, c'est vraiment le truc le plus sous-coté et le plus important pour la santé. C'est une hormone, la vitamine D. Les gens sont sur toutes les prises de sang carencées. Franchement, c'est catastrophique. Et donc, dans ce cas-là, en fait, si vous êtes carencé en vitamine D, vous avez plus de lésions musculaires ou osseuses, des faiblesses musculaires et une fonction neuromusculaire qui est réduite. Donc, déjà, ça, il faut vraiment y prendre soin. Ça veut dire s'exposer au soleil quand on peut. Et même quand on peut, c'est très difficile de pouvoir avoir un bon taux. Vous avez toutes les vitamines B, parce qu'elles participent à l'énergie cellulaire, les vitamines B1, B2, B3, B5, B12, Bref, elles viennent toutes constituer un effet dans l'énergie cellulaire. Donc, c'est très important de pouvoir avoir cet apport alimentaire. Et après, on parle beaucoup de zinc, puisque le zinc, c'est beaucoup lié à l'augmentation de la testo libre. Et donc, je vous expliquais tout à l'heure, c'est elle qui nous intéresse, celle qui n'est pas fixée sur les transporteurs. Il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait un lien entre. Donc, il ne faut surtout pas avoir des carences en zinc. Et le magnésium a une part aussi qui est importante là-dedans. Donc, c'est vraiment tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut se complémenter en tout. Mais ça veut dire que c'est des éléments sur lesquels on peut vraiment se focaliser pour augmenter la performance dans le sport.
Et qu'est-ce que tu, par exemple, pour un athlète lambda du quotidien, ou peut-être un coach pour recommander à ses athlètes après une classe, qu'est-ce que tu recommanderais, par exemple, de suite après la séance, c'est, par exemple, c'était une séance de crossfit normale, et peut-être avec une grosse partie, une prédominance de force dans cette séance, qu'est-ce que tu recommandes de prendre, par exemple, en termes de protéines? Et maintenant, vu que les gens qui ont vu la vidéo YouTube où on parle des différentes protéines, ils vont nous demander, ils vont dire, ouais, mais vous dites protéines, mais quelles protéines? Du coup, hydrolysées, isolates, là, ouais, il y a combien de pourcentage? Donc, qu'est-ce que, même en termes de glucides associés à cette protéine, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens juste après leur séance? Quelque chose de simple.
Juste après la séance, c'est d'avoir donc un apport, un scoop de protéines. C'est une protéine qui est saine, qui n'a pas tous les sucraloses, etc., dont on avait parlé, ou surtout d'acésulfame K, c'est ce qui est le plus important. Du coup, d'avoir ça, plus une source de glucides, par exemple une banane que vous pourrez avoir, puisque ça fait augmenter rapidement l'insuline une fois que vous avez fini l'exercice, et c'est déjà pas mal en fait. Une source
et en termes de protéines, du coup, tu recommandes quoi aux gens de prendre de l'isola, de la whey, d'hydrolysé, de la clear whey, bref, peu importe.
En crossfit, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une protéine qui est prédigérée parce qu'elle permet d'être... On sait que l'intensité, c'est très irritant, entre guillemets, pour les intestins, et on a souvent l'intestin poreux après des exercices très intenses.
Donc plus hydrolysée.
Plus hydrolysée, parce qu'elle permettra de... Elle est déjà prédigérée, elle sera beaucoup moins agressive pour la barrière intestinale et elle pourra être ingérée facilement et assimilée facilement.
Parfait. Donc, protéines hydrolysées, une banane et ça part. Un gros sommeil et demain, ça part. Le lendemain.
Et puis, au soleil...
Ouais, au soleil, bon sommeil.
Au soleil, bon sommeil, assez de protéines, assez de gras... Assez de glucides, manger équilibré, quoi, déjà, ce serait déjà pas mal.
Ouais, n'oubliez pas la base, manger, c'est bien. Ouais.
Donc, allez voir le podcast questions-réponses, le dernier qu'on a fait, on parle de nutrition, on évoque d'ailleurs un projet sur lequel on travaille, vous trouverez peut-être un lien en description, allez y faire un tour, on répondra à cette demande sur la protéine de manière un peu plus pointue dans le futur. Et d'ailleurs, je voulais, on parlait de sommeil, de soleil, etc., je voulais juste conclure sur un aspect, c'est celui des courbatures, de la récupération. Concrètement, quand je suis novice, etc., quand je m'entraîne de manière assez sérieuse, ça peut arriver d'avoir des courbatures. À quel point est-ce qu'on doit avoir des courbatures? Est-ce que les courbatures sont une bonne mesure du résultat et de l'intensité et des adaptations? Will, je ne sais pas si tu veux parler là-dessus.
Déjà, je pourrais dire. Après, je sais que Thibaut et même Mims vont rentrer dans le sujet un peu plus de manière précise au niveau physiologique, mais c'est vrai qu'on a. Trop d'athlètes ont tendance des fois à penser qu'ils ont bien travaillé lorsqu'ils sont bien courbaturés, ce qui peut être synonyme de vrai, mais bon, après, il y a une grosse phase de récupération parce que voilà, courbature égale dommage et automatiquement, pour qu'il y ait ces adaptations à la suite de ces courbatures, il faut du repos. Et des fois, ils s'entraînent et ils n'ont pas de courbature et du coup, ils ont le raisonnement inverse en se disant « Ok, j'ai pas assez travaillé, j'en ai pas assez fait, je me suis pas assez donné ». Et c'est pas forcément vrai. Donc, c'est juste, faut bien faire attention à ça. Et on est tous différents. On en parlait avant. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est très courbaturé. J'ai des fois des grosses courbatures. Alors, parce que peut-être je vais loin dans l'effort. Mais, par exemple, si je peux vous donner un ordi, on peut avoir des courbatures sur une séance d'entraînement ou parce qu'on est allé loin sur un nombre de reps à des charges légères ou parce qu'on est allé fort sur des reps plus lourdes. Mais également, ou parce qu'on a essayé de, la dernière fois, par exemple, j'ai eu des courbatures. Il y avait une séance d'explosivité et à chaque saut, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Et j'essayais de mettre le plus d'explosivité possible. Et le lendemain, je me suis rendu compte, mais en fait, je suis courbaturé de ça. C'est parce que du coup, cette intensité, elle était vraiment poussée loin. Donc, il faut bien comprendre ce terme de courbature. Il y a différents, peut être engendré par différentes choses et aussi avoir conscience que c'est pas forcément synonyme de bon ou de mauvais travail forcément. Et c'est au crossfit. C'est pas que au crossfit, mais on a souvent tendance à blâmer les gens quand on fait un gros workout. Le lendemain, il arrive, t'es courbaturé, t'as pas de courbature, bah, t'as rien foutu. C'est dommage parce que c'est pas forcément vrai. Bah, Thibaut, je sais que tu vas enchaîner là-dessus. Ouais.
Non, mais déjà, une courbature, ce que c'est une réaction inflammatoire que le corps va produire suite à une agression. Donc, si jamais vous avez trop agressé votre muscle, le lendemain, vous allez avoir une réaction inflammatoire. Et donc, c'est pour ça que quand vous touchez, c'est assez douloureux. Voilà. Après, il n'y a pas spécialement de règles. C'est-à-dire, il y en a qui sont plus ou moins sensibles au niveau des courbatures. Il y en a qui ont beaucoup plus de courbatures que d'autres. Et il y en a qui en ont dans certaines zones du corps. Il y en a, par exemple, qui ont énormément de courbatures aux cuisses en permanence et jamais en haut au du corps. Donc, ça, c'est vraiment dépendant. Les courbatures, elles peuvent arriver, on dit en général, ça arrive 24 heures après, mais le pic de douleur, il est 48 heures après. Ça aussi, c'est la règle, mais ça, c'est pas le cas chez tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus sensibles le lendemain que le surlendemain. ce qui est sûr aussi, c'est que les courbatures ne sont pas un indicateur de j'ai bossé de la meilleure façon, sinon j'ai pas de courbature. Par contre, on conseille d'avoir sur une douleur entre 1 et sur une échelle de 1 à 10, d'avoir des courbatures aux alentours de 3 sur 10 pour dire voilà, j'ai travaillé, j'ai créé une réaction en chaîne, donc j'ai une inflammation que je suis en train de traiter. Le fait d'avoir des courbatures beaucoup trop poussées, c'est par exemple quand vous faites une énorme séance de squat, etc., etc., et que le lendemain, vous pouvez même pas aller aux toilettes parce que c'est pas possible de s'asseoir. En soi, oui, vous avez beaucoup travaillé, c'est très bien. Mais ces douleurs-là, vous allez potentiellement la garder pendant 3 ou 4 jours. Ce qui est sûr, c'est que vous allez être incapable d'utiliser vos cuisses pendant 2 ou 3 jours ou 4 jours. Et donc, vous allez réduire votre entraînement. Et donc, oui, parfois même plus, c'est clair. Et donc, si vous n'êtes pas capable de vous entraîner pendant les 3, 4, 5 jours après, vous êtes peut-être allé un peu trop fort et votre progression va du coup en pâtir à cause de ça, parce que vous n'avez pas pu vous entraîner par la suite. Donc le but, c'est pas de se mettre la misère en une fois et ensuite plus s'entraîner pendant une semaine, se mettre la misère une fois et plus s'entraîner, c'est de s'entraîner régulièrement. Donc il faut gérer cette tolérance à la douleur. Si vous savez que vous êtes hypersensible lors de ces grosses séances de front squat sur des reps entre 10 et 20 répétitions, et bien dans ces cas-là, ce jour-là, prévoyez d'avoir un jour de repos le lendemain, peut-être réduisez un petit peu le volume d'entraînement, parce que vous savez que ça va vous permettre de vous entraîner par la suite. Voilà ce que je peux dire sur les courbatures.
Il y a un phénomène qui est très drôle des fois, c'est qu'on voit des personnes se plaindre de ne pas avoir de courbatures, souvent, ou de dire « je n'ai pas forcément souvent des courbatures », et pendant la phase des Open, on se rend compte que beaucoup de monde a des courbatures, parce que les gens vont beaucoup plus loin dans l'intensité, dans l'effort, et c'est là qu'on se rend compte que c'est lié aussi à cette intensité, on en revient toujours à ce mot, et donc c'est vrai que moi, j'ai jamais été autant courbaturé que pendant les WOD de qualification, des compétitions. Je crois que le pire, c'est les French 2019, les French 2019, je crois que c'est les pires courbatures que j'ai eues de toute ma vie, comme pas mal d'athlètes. Et donc, automatiquement, quand on va plus loin dans cet effort et dans cette intensité, les courbatures, elles arrivent tôt ou tard. Et comme tu l'as dit, Thibaut, adapter, avoir cette intelligence au niveau de l'entraînement, de ne pas se dire ouais, je vais faire la séance, je suis un warrior, je fais du crossfit, moi, je m'en fous. Non, parce que là, au final, vous allez rentrer dans un cycle contre-productif et vous allez peut-être même aller à l'inverse de ce que vous voulez, donc progresser. Et ça passe par peut-être se mettre une zone 2 peut être efficace, faire une espèce de blood flowing, comme ils disent, ils adorent les Américains, pour faire circuler le sang et régénérer tout ça, parce que ne rien faire et rester allongé, ce ne sera pas bon pour vos courbatures, il n'y a pas de sang qui va circuler, donc automatiquement, en tout cas moins bien, il y a toujours du sang qui circule, vous m'avez compris, mais moins bien, donc ça ne va pas vous permettre de récupérer de manière rapide, mais c'est super important, ou peut-être des fois c'est des réflexes, quand vous savez que vous êtes allé trop loin dans l'intensité, dans l'effort, que vous sentez, parce que c'est vrai que les courbatures, elles arrivent souvent le lendemain, parce que si je dis pas de bêtises, l'enzyme des courbatures arrive pendant et sécrétée pendant le sommeil, même si elle me regarde pas avec des gros yeux, c'est que j'ai pas dit une connerie. C'est bien, j'ai pas eu peur. Et donc automatiquement, c'est peut-être se mettre juste après la séance. Vous voyez souvent les athlètes des Games le faire, mais ça peut vous arriver même en haut du jour, se mettre 5 minutes sur un bike erg, un eco bike ou un rameur et tourner les jambes tranquillement. On n'est pas sur du 80-90 RPM, hein, calmez-vous, mais gentiment.
Ouais, complet, Will. C'est le premier conseil qu'on donne après une séance, peu importe, c'est de faire un blood flow. Donc, vous pouvez aller marcher, vous pouvez faire du bike erg, vous pouvez juste bouger et faire un peu bouger du sang là-dedans. La deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser un rouleau de massage pour faire des automassages et pareil, venir faire un blood flow là-dedans et un peu mobiliser tous les tissus. Et autre chose, vous pouvez utiliser
Si vous savez pas quoi faire, tu le diras pas parce que tu vas dire ouais après les gens ils vont dire que tu te fais trop d'autopub à GoWod, mais je vois trop de personnes des fois te faire de la mobilité passive juste après les séances, après des grosses séances intenses, et là vous pouvez accentuer en quelque sorte ce phénomène de courbature et pas dans le bon sens du terme. Donc c'est important aussi de savoir quelle mobilité vous pouvez faire après votre séance, et c'est pour ça que vous
on en a parlé dans un ancien podcast et on avait donné tous les processus de récupération.
C'est ça, c'est pour ça, mais moi, il y a des exos que je ne connaissais pas. Vous prenez le post-WOD sur l'application GoWOD et vous regardez, et il y a plein de mouvements intelligents de mobilité spécialement conçus si vous êtes allé dans cette intensité qui va générer des courbatures ou qui a déjà généré des courbatures, et pour éviter d'aggraver la chose, parce que c'est très facile de l'aggraver avec de la mobilité passive, surtout si quand le muscle commence à refroidir et que vous voulez vous étirer, croyez-moi, ça peut faire mal.
En tout cas, ça fait partie des premiers podcasts qu'on avait fait, et je sais plus si c'était sur le surentraînement, mais on avait parlé des protocoles et alimentaires et cryo et de récup après séance pour justement mieux récupérer. Donc, n'hésitez pas à écouter.
Ouais, allez faire un tour dans nos podcasts, notamment dans les questions-réponses. Je crois le premier ou le deuxième épisode de questions-réponses, il y a des trucs assez intéressants là-dessus. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que disait Tib, il y a des études hein, vraiment qui montrent que si vous voulez développer votre force, votre puissance et votre vitesse, vraiment ça, hein, pas si vous êtes dans un cadre CrossFit avec du cardio, etc. Ben ces courbatures de 3 sur 10. Ce ressenti de 3 sur 10, c'est super important. Typiquement, quand vous allez aller plus haut, ben, vous allez avoir moins de bénéfices. Et la zone 2, comme tu disais, Will, ben, on parle beaucoup d'interférences sur la force. Donc, souvent, on a peur si on veut développer sa force, si on fait du cardio, etc. Ah, ben, on a peur que ça nuise un peu. Alors, ça peut être le cas. Mais en tout cas, c'est prouvé qu'avec la zone 2, typiquement, il n'y a pas d'interférence. Typiquement, vous pouvez faire votre séance de force et votre zone 2 dans la même journée sans avoir de réel problème d'adaptation physiologique pour les
si
gens
la
qui
zone
veulent
2
aller
est
loin
bien exécutée.
Bien
si
entendu.
La zone 2 est respectée parce que c'est aussi le problème des fois.
Dans ces études, ils disent typiquement c'est à une vitesse conversationnelle, donc vous devez être capable d'avoir une véritable conversation de manière reposée sans être essoufflé avec une personne pendant toute votre zone 2. Et ils ont fait les protocoles avec 2 à 3 heures de zone 2 par semaine avec un protocole de force assez puissant. Donc, c'est intéressant. Ben, en tout cas, pour, je pense qu'il y a plein de choses dans ce podcast et ça nous donne des thèmes pour le futur, notamment la force pour l'enfance et le développement de l'enfant et le potentiel athlétique. Mais en tout cas, pour résumer un petit peu, on a parlé du fait que c'est pas les exercices le plus important, c'est comment vous allez varier. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, la variance, allez regarder le protocole de méthode conjuguée, etc. Il y a plein de ressources là-dessus. L'intensité, soyez pas impressionné par le volume, mais par l'intensité, comme disait Greg. Et souvenez-vous, l'intensité, c'est pas des courbatures, c'est pas de saigner des mains, c'est pas de vomir par terre. C'est comment vous appliquez l'intention dans les entraînements. Ensuite, la nutrition, ne sous-mangez pas. Si vous visez le développement de la force et votre potentiel athlétique, alors il faut manger en fonction et il faut manger des choses saines. Ensuite, le lifestyle. Donc, en plus de la nutrition, ben, il y a le sommeil, s'exposer au soleil, avoir une vie où on s'expose pas à du stress inutile en permanence. Sinon, ben voilà, votre testostérone, elle va en pâtir malheureusement. Et enfin, la récupération, la fréquence d'entraînement, étalez vos séances, ayez assez de récup, ayez du temps de récup entre les séries. Et faites ça de manière intelligente. Et encore une fois, pour les novices, pour les gens qui sont dans les affiliés, suivez la programmation de votre box, écoutez votre coach, le stimulus du WOD, combien vous devez prendre de récupération, est-ce que vous devez prendre des jours de repos. Ne faites pas des protocoles d'open gym sans consulter votre coach, parce que si vous faites du squat et le lendemain il y a du squat, c'est quand même dommage. Et je pense qu'on a à peu près tout dit. En tout cas, ben moi, je vous remercie pour votre écoute sur ce podcast. Encore une fois, allez regarder le thème du surentraînement et les autres questions-réponses et également les interviews qu'on a fait avec Jeff Adler et Victor, avec qui on évoque aussi les protocoles d'entraînement et la récupération qu'ils prennent après les grosses compètes. Je pense que on va vous laisser là parce que ça fait suffisamment d'informations pour aujourd'hui. En tout cas, on vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner soit sur Spotify, soit Apple, soit sur YouTube. Ça nous aide beaucoup pour le futur. Et encore une fois, il y a un petit discours sur notre projet dans le dernier podcast Questions-réponses. Allez y jeter un œil, allez dans la description, il y a un lien, cliquez dessus, mettez votre mail et voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Tib, Mims et Will et on se retrouve la prochaine fois.
Merci à vous.
Merci, ciao, ciao.
Bon entraînement à tous.
Meilleurs vœux.